Elle est pas mal cette boucle là, là. En vrai là. Hein? En vrai, petit nouveau titre découvert ce matin. Je vais piocher dans ma banque de musique. Et puis, je sais pas, je sais même pas comment ça s'appelait ça. Be Somebody, c'est le titre. Mind Me, c'est l'artiste. Mind Me Collé. Voilà. Et je suis allé fouiller dans quoi? Dans Hyper Pop. Qu'est-ce que c'est ça? Non, le coca le matin. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. J'en ai quasiment plus d'ailleurs. Donc ouais, c'est mon tube digestif. Moi j'aime bien. Voilà, de toute façon c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. À quoi un peu de Madonna? Oui, mais non, ça c'est de la musique libre de droit. Là, je paye un abonnement, j'ai pas de Madonna dans ma banque. Exactement. Cheveux ou pas, on reste BG. Ouais. N'oublions pas le plan secret qui est de finir l'été la poule à Z. Voilà. Mon épouse est tombée sur un extrait du stream où je disais que j'avais un projet secret de me raser. Les cheveux progressivement cet été. Voilà, donc. Dino, t'as coupé. Hier soir, au Dino, il me dit mais Tu t'es coupé les cheveux, toi? Avec le petit sourire en mode je vois tes clips sur TikTok. Donc voilà, il faut que j'en mette un coup aujourd'hui, d'ailleurs, à mes cheveux. Ça va, vous? Si tu veux, tu peux mettre mes musiques, mon nom d'artiste, Wap Didou. Wap Didou. Sam, tu as survécu à l'autostop avec les Allemands? Non, finalement, c'est mon beau-papa qui m'a déposé. Sinon, je vous aurais fait un live. Attends. Wap Didou? C'est mon beau-papa. Wap Didou. Wap Didou. Je t'ai trouvé déjà. Hey! Hey. Mais du coup, c'est libre de droit ou pas, ou je vais me faire strike? Hein? Est-ce que j'ai le droit de les utiliser ou pas? Samuel, aux couleurs de la Corse ce matin. Tu dis ça parce que je suis un peu rouge? J'attends le mec qui me dira si je suis embauché dans l'entreprise que je veux. J'ai trop hâte, me dit Azouina. On croise les doigts. La barbe, c'est pour quand, Samuel Etienne? Ah oui, c'est vrai que je me laisse plus pousser la barbe. C'est vrai. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je me rase tous les matins, avant la revue de presse. Ouais, je ne sais pas. Depuis quelques mois, là, j'ai une maniaquerie. Moi qui aime bien me laisser un petit peu... Je me rase. J'ai besoin d'être rasé de près. Ouais. Voilà. Aiguisé comme un couteau, pour l'info. Ça va, Valo? Te manque pas trop? Alors, de jouer si, Golanas. Après, mon niveau ne me manque pas trop sur Valo. Hein. On est sur un mois de juillet très info, pas trop gaming, voilà. Il y en aura en août, mais le jeu me manque, mon niveau, non. Est-ce que je me rase au katana? Bien sûr. Est-ce que tu as eu déjà une grosse beubare ou des cheveux longs? Grosse beubare, jamais. Cheveux longs, oui, jusque-là, quand j'étais jeune. Je me rase à la biscotte, comme dit mon père. C'est impossible, ça. Comment tu peux te raser avec une biscotte? Merci Manu pour le Prime, merci Aladdin pour le Prime, merci Wolf King pour le 7e mois, merci Café au lait de Bon Matin pour le 9e mois, merci Valstoop 75 pour le 18e mois, merci Rimec pour le 34e mois d'abonnement, merci beaucoup pour tous ces gentils subs de Bon Matin. À la biscotte? Ah, je veux te voir avec les cheveux longs. Ah bah trop tard Lucky, parce que vu ce qui reste, si tu veux, on va plutôt vers la boule à Z que vers le catogan, quoi. J'aimerais bien te voir une photo de toi jeune avec les cheveux longs. Il y en a. Il y en a. Sauf qu'en fait, sur toutes les photos de jeunes que j'ai les cheveux attachés. J'avais un catogan. Et donc, on voit pas vraiment que j'ai les cheveux longs. C'est un peu ridicule. Ouais. C'est une époque où il n'y avait pas les téléphones, tout ça, qui faisaient appareil photo. Donc, à l'époque, quand on voulait faire une photo, à mon époque, à moi, on prenait rendez-vous avec un monsieur qui venait avec une espèce de boîte noire qui était posée sur des trépieds, et puis il mettait une espèce de petite cape par-dessus sa tête. Voilà, et puis il fallait prendre la pose pendant 15 ou 20 secondes. Et à un moment, il avait une espèce de poudre sur un plateau là, qui s'enflammait, qui faisait flash. Et ouais, fallait en calèche, ouais. Et donc c'était bon, bah voilà, il n'y avait pas. C'était pas comme maintenant, quoi. Workers, salut tout le monde, j'en profite tant que le chat n'est pas trop actif. Je cherche une alternance en gestion de patrimoine pour mon master à partir de septembre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Les amis, est-ce que quelqu'un connaîtrait une éventuelle alternance en gestion de patrimoine pour un master à partir de septembre? C'est pour Workers, Workoz, que vous pouvez DM dans le chat. C'était avant ou après la préhistoire? C'est juste après. Si tu parlais au toi d'il y a 10 ans, serais-tu capable de lui faire comprendre l'intérêt et la passion du jeu maintenant que tu es bien dedans? Oui, je pense que j'y arriverai. Oui, le daguerréotype, oui, c'est ça. Ouais. C'était à l'époque de Dr. Quinn, femme médecin. Ouais, c'était une copine d'ailleurs. Ouais. Salut Samuel Zissan, tu devrais mettre le bandeau autour du front comme le drapeau corse. Oui, t'es sûr? Ça va, Venox, merci. Merci Magic Mushroom pour ton d'abord ton joli pseudo et pour ce deuxième mois d'abonnement. C'était bien mes 68. C'était bien mes 68, mais j'étais pas dans la rue, j'étais déjà un peu âgé à l'époque. Je regardais tous ces petits jeunes qui faisaient les fous là sous les pavés de la plage, il est interdit d'interdire, tout ça. Mais bon, déjà, j'étais déjà un petit peu vieux, moi. Mathilde me dit que pour la gestion de patrimoine, peut-être que l'UNESCO à Paris propose quelque chose qui serait assez fou. Merci Alexandra pour ton gentil message, j'espère que tu vas bien. Il y a Pierre-Alex qui cherche un travail en tant que technicien support informatique à Valenciennes, ami dans l'informatique du côté de la région de Valenciennes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez des gens qui recrutent? Nous dit gentiment Pierre-Alex. Pierre-Alex Collet. Avec XFR à la fin, vous avez le message dans le chat si ça vous parle. Ouais. Bonjour, bonjour, j'arrive de Zurich avec Tonton. Ah oui, pourquoi tu nous racontes ta vie de famille? Non, Tonton le streamer. Bah, je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout, poum, que tu vas en famille en Suisse? Non, je te plaisante. Ah oui, Tonton, bien sûr. Bah, qui est Suisse? D'ailleurs. MMG, si quelqu'un a une offre d'ingénieur dans l'aéro ou le spatial sur Toulouse, je suis preneur. L'ami MMG7F. Ah, il y a Muriel Tina qui est de retour. Alors, je ne sais pas qui est Bastien Fitoussi. Alors, Muriel Tina, c'est quelqu'un qui a pop dans le chat il y a quelques jours et qui nous régale le matin de messages assez surprenants. Bastien Fitoussi, je ne sais pas qui c'est. Grand copain à Hanouna, tous les deux des bâtards pour tout le mal qu'ils m'ont fait et qu'ils ont fait à Delphine Vespizer et toutes les autres victimes que je ne connais pas. Je souhaite de terminer leur jour en prison et encore, je suis bien gentil. Merci Muriel pour cet édito. Merci beaucoup. Ça m'avait manqué depuis hier matin. Master Fox est à la recherche d'une alternance coordinateur BIM. C'est quoi BIM? Je connais Bim Bam Boum, mais ça ne doit pas être ça. Une alternance à coordinateur BIM, BIM. C'est quoi BIM, les amis? En Gironde, Master Fox 33. C'est quoi BIM? Coordinateur BIM. Maquette 3D? Ok. Building Information Modeling. Waouh. Madelon, si quelqu'un a un plan pour poste de maître du monde de l'ombre. On sait jamais, on sait jamais. Recherche un poste de premier ministre, si vous avez des pistes, c'est pour l'automne, me dit Dead Picture. Ah, c'est. On a 1000 euros de questions pour un champion. C'est les audiences, ça. Bon, c'est des rediffs cet été, donc ça n'a pas beaucoup de sens. On en rediff tout l'été. Bon, ouais, on arrive à faire du monde quand même avec de la rediff. Et ouais. Je vous lis, hein, c'est mon petit plaisir du matin. Ça me réveille aussi. BIM, c'est la gestion des maquettes 3D pour les projets dans le bâtiment. C'est très recherché. Tu devrais trouver facilement une alternance sur Paris et dans une bête structure BET, nous dit Nous 124. Intéressant, hein? Est-ce qu'il y aura Solal et Malo? Solal et Malo, les enfants qui viennent faire des chroniques Pokémon et Brawl Stars, c'est quand? C'est eux qui décident, hein? Ici, c'est une rédaction très fun, très libre. C'est chill, c'est un peu. C'est start-up en mode. Tu vois, tu fais quand t'as envie, quoi. Tu vois, donc les enfants passent faire des chroniques de temps en temps, là, en vacances, mais c'est au feeling. Donc peut-être. Peut-être. Quelque chose me dit qu'ils vont passer, ouais. Ouais. Laurent qui m'envoie des SMS, là. Je vais aller voir ça. Il y aurait du nouveau, il y aurait du nouveau. M'étonnerait. Force à Doomfeld. Bonjour Samuel, reste un plaisir de t'écouter le matin pendant que je travaille dans les champs. J'espère que tu te protèges bien du soleil en vrai. Hello, je suis à la salle de sport, je vous écoute en même temps. C'est une première, on t'adore. Étienne, salut Calypsy, tu peux m'appeler Samuel. Bon sport à toi, mon ami. Merci. Oui, il y a une pluie de subs ce matin. Isaac 2501, merci pour le deuxième mois. Kovac 002, merci pour le Prime. Et encore merci Magic Mushroom. Je déjeune devant ça, mais il y avait longtemps, je me beurre les biscottes devant le live, ça te dérange pas ça? Ben non, une relief lumière, c'est très bon les biscottes. Le beurre, c'est bon, le beurre, c'est la vie. Tu peux te beurrer la biscotte tant que tu veux, mon cœur. Beurre-toi, beurre-toi. C'est très bon la biscotte. Moi, je suis un mangeur de Chris Prolls, moi. Et j'aime le beurre. Et j'aime me beurrer le Chris Prolls. Je le fais assez régulièrement, d'ailleurs. Donc, oui. Il n'y a personne au bureau, je peux mettre le stream en grand écran. Salut Pigroline. Bel accompagnement pendant ma matinée à l'Institut Max Planck. On se fait chier parfois. J'espère que ta hiérarchie de l'Institut ne t'écoute pas actuellement. Merci Alpha. Merci Erosso38 pour le quatrième mois. Merci Noah pour le Prime. Vous êtes incroyable. Vu que c'est le moment des petites annonces, vous invite tous et toutes à venir faire un petit tour, nous dit Petit Pain Chaud, dans un des plus beaux villages de France, Oingges. Oingget. Oingges, dans le Beaujolais. On y est bien. Oingges. On y a du bon vin à Oingges? Il ne peut y avoir que du bon vin à Oingges. Oingges. À moins qu'on prononce Oingt. Ça me rappelle une chanson. Passe-passe le Oingges. Passe-passe le Oingges. Passe-passe le Oingges. Passe le Oingges, il y a du monde sur la corde à linge. Mais c'est une vieille chanson. Ça se prononce Oing? Ah merde, ça marche moins bien. Oing, c'est pas en Jamaïque? Bah, je pensais aussi, ouais. On dit Oing. D'accord, ok. C'est moins drôle. Bonne ref. Rêve de vieux, mais bonne ref. Comment ça, c'est pas 22h? Bah non, il n'est pas 22h. Qui a dit qu'il était 22h? Merci, mais vous êtes fou là de sub ce matin. Merci Xantin92 pour le soutien. Merci pour le deuxième mois. C'est mon plaisir, c'est vous lire. Samuel, j'ai une question. Vu que tu connais très bien le milieu du visuel, est-ce que France 3 Hauts-de-France recrute des personnes dans le milieu du visuel, s'il te plaît? Je cherche dans les Hauts-de-France, région lilloise ou valenciennoise. Je serais très preneur de tes conseils. Pierre-Alex, je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas du tout l'économie des régions de France 3. Il faut que tu prennes contact avec France 3 Hauts-de-France. Ils ont un standard, ils ont sûrement un service RH. Il faut que tu les appelles direct, en vrai. Même tu vois, tu les appelles, tu te déplaces même. Les étrangers ont du mal à prononcer, me dit Petit Pain Chaud, même les Français galèrent. Mais du coup, on dit Oinge? On dit Oinge? Samuel, je ne mettrai jamais ton stream sur haut-parleur, je suis au taf et j'entends dire que tu aimes te beurrer le Chris Prolls. Ah bah oui, mais qui n'aime pas se beurrer ce Chris? Qui n'aime pas se beurrer le Chris Prolls? Hein? Bah oui. C'est quoi toutes ces... Ah, c'est les audiences. Bah oui, mais les gars, les audiences de... C'est les rediffs, hein? Bon. Perso, je me confiture la cracotte. Bah oui, bon, après, je suis très ouvert, moi. Bien sûr, Pierre Alex, faut tout tenter, faut tout tenter. Ça en est où, question pour un champion? Il y a une pétition pour le... Oui, il y a une pétition, mais bon. Dead Picture, je te préchote le truc, hein. La pétition, elle pourrait faire 1 million de signatures. Là, elle est à 50 000, que ça ne changerait rien. Je ne vois pas comment la direction de France Télévisions pourrait revenir sur cette décision. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'est pas une démocratie. Merci Mimille, tu régales. Merci pour le 14e mois, nom de Dieu. Bonjour, a-t-on parlé du décès de Thierry Ardisson dans les émissions précédentes? Quoi? Attends. Thierry Ardisson? Il est mort? Thierry Ardisson? C'est pas possible. Thierry. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Puis il était si jeune. Non, on en a parlé, ouais. On en a parlé 2 fois déjà. 2 streams en début de semaine. Tu l'as sur replay. Mais que quoi? Exactement. Oui, c'est ça. Mais que quoi? Petit ange parti si tôt, mais oui. On a parlé de la loi du plomb aussi, ouais. Tu l'as en replay. Tu deviens un meilleur acteur de jour en jour. Je ne suis pas sûr, Sun Blasted. Ni meilleur chanteur, ni meilleur danseur, mais on fait ce qu'on peut. Il y a quoi avec Question pour un champion, Miklaou? C'est fini. C'est presque fini. Ton acting devient de mieux en mieux, des projets pour un film bientôt? Non, bad, non. Je vais épargner l'humanité de mes talents d'acteur. Bonjour, en télétravail ce matin, je vous suis d'une oreille, me dit Kali Cancrela. Cela veut donc dire que tu consacres une oreille au travail et c'est temps cassé. Salut Sarah. Ça a été pour la playa ça... Oui, c'est mon beau-papa qui m'a déposé. Après, moi, la playa, c'est 3 heures sous un parasol, hein, vu que j'ai une peau d'Irlandaise, si tu veux. Donc, voilà, je surveille les enfants. Maman Soleil est venue faire une sieste avec moi, c'était cool. Voilà, on était à Londres tous les deux. J'ai écouté de la musique sur mon iPhone. J'ai essayé de renouveler ma playlist pour courir. Puis en rentrant, je suis allé courir. Voilà. J'ai un petit chemin. J'ai un petit chemin là sur le littoral. Ce petit sentier corse là. Voilà, que j'aime bien. Bon, je fais à 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de la forme. 1 heure hier parce que je suis allé courir tard. Vraiment fin de journée, on était sur du 19h. 19h-20h, donc vraiment la température était tombée. Voilà. J'ai fait péter le. Comme il n'y a vraiment personne, j'enlève même le t-shirt. Hier soir, il n'y avait personne, il n'y avait vraiment personne. Parfois, je croise les gens de retour de plage, je voyais, il n'y avait personne. J'ai enlevé le t-shirt, je courais torse poil. Comme un gigachad que je suis. Torse poil. Voilà, j'avais avec mon maillot de. Voilà, avec les abdos saillants, les pecs bombés, les biceps un peu tendus là, le jarret, le cuisseau élancé, non pas du tout, tout ça pendouille, c'est une catastrophe. Voilà, mais bon, comme il n'y a personne, on s'en fout quoi. Ouais. Avec tous les dragons dehors, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que quand je croise des gens égarés, sur les sentiers, parfois encore, tu trouves des gens égarés qui cherchent leur chemin pour revenir au camping ou que sais-je. Je vois que ça me regarde un petit peu quand même. Alors, est-ce que c'est les tatouages? Bon, parce que pour le coup, il y en a quand même beaucoup. Ou alors, est-ce que c'est l'état un peu mollasson du physique, quoi? En mode, oh, regarde le monsieur, il est tout mou. Je sais pas. Je sais pas si c'est l'un ou c'est les deux. C'est pas ma tête, de toute façon, parce que moi, quand je cours, j'ai un bœuf. J'ai un buff sur la tête, j'ai un foulard sur la, de running sur la tête qui pour me protéger du soleil, il faut pas déconner. Et puis des grosses lunettes noires, un peu comme Thierry Ardisson. Sauf que moi, je fais du sport. Voilà. Et, pardon. Et donc, je. Mais, voilà. Mais bon, voilà. Mais bon, je le fais parce qu'il n'y a, y a pas grand monde, quoi. Généralement, je cours uniquement en gardant mes chaussettes, me dit Siming. On veut des photos. On veut des photos. Comment ça avance pour question pour un champion? Je dirais plutôt que ça recule, Khalil, tu vois, plus. On dirait un flan. Oui, c'est plutôt ça. Oh, regarde, le monsieur, on dirait un flan. Ouais. Bah ouais, c'est pas rien d'impressionnant, quoi. T'es pas mou, t'es moelleux comme la brioche au petit-déj le matin. Merci, café au lait. Tu m'étonnes si les gens se retournent si tu as un bœuf sur la tête. Non, mais pas un bœuf, l'animal. Un bœuf, c'est un foulard. BU2F. Samuel, est-ce que tu regardes le Tour de France? Non. Voilà, je voilà. Il y a deux trucs y a deux trucs sur lesquels je fais un effort depuis toujours, depuis que je suis enfant. C'est les huîtres et le Tour de France. Je n'aime pas les huîtres. Je mange une huître chaque année à Noël pour comprendre pourquoi la passion des huîtres. Voilà. Et le Tour de France. Voilà. C'est vrai que chaque année, j'essaye. Je suis pas vélo, quoi. Tour de France, huîtres. Ça ressemble à quoi un bœuf? Bah, je vais te montrer. Bœuf running. Je vais te montrer. Bah, c'est surtout un truc de trailer, ça. Attends, les mecs qui ressemblent vraiment à rien là. Attends. Putain, mais pourquoi? Moi, je suis super sexy avec ça, mais là, ils ressemblent à rien, les gens que je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, c'est ce genre de foulard là. C'est une marque d'ailleurs à l'origine, Bœuf, je crois. Tu vois, c'est ce genre de foulard sur la tête là. Ça peut servir aussi tu mets, quand il fait très très froid, tu peux le mettre sur ta bouche aussi, l'air est moins froid. Tu vois, c'est vraiment un truc de trailer ça. Certains préfèrent mettre des casquettes vertes. Tu vois, c'est un foulard. Attends, il n'y a pas beaucoup de photos. Bon, là, c'est moi qui est en train de courir là, à droite là. Bœuf, 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 bœuf. Ouais, alors certains le portent un peu comme ça, mais moi je le porte pas comme ça. Moi je le porte comme ça plutôt. Voilà. C'est marrant, personne ne le porte comme moi. Je dois pas le porter comme il faut. Bœuf. Bon, c'est une marque en plus, bœuf, attendez. Tous. On va tomber. Red Light, c'est une bonne marque ça. Bœuf, voilà. Alors. Oui, autoriser les cookies. Alors attends. Filtré par activité running matériel. Oh, mais, oh là, je suis nul. Pas doué, moi. Oh, c'est chiant. Pas de photo là? Bon bref. Bon bref, c'est un foulard. Voilà. C'est tout. Mais c'est comme. Frigidaire, c'est une marque en fait. Bœuf. C'est les breakdancers qui ont ça. Alors, je sais pas, peut-être. Je fais pas trop de breakdance, moi. Tu fais un effet bœuf.
Ouais.
Ah, le qui, j'en ai un fluo pour qu'on me voie dans la nuit. Voilà. Moi aussi, j'en mets un fluo la nuit pour que mon épouse me trouve la nuit. Merci, Julio Franchute, pour le 46e mois. Quoi? Jean-Christ de Bastia, j'ai une grande nouvelle, Sam, je suis papa, attendez, on arrête tout, d'une petite fille née à Bastia le 13 juillet 2025. Les amis, est-ce qu'on peut féliciter Jean-Christ de Bastia qui vient de devenir papa? D'une petite fille née à Bastia le 13 juillet, c'est quand ça, le 13 juillet? C'était il y a 4 jours? Félicitations, Jean-Christ. Incroyable. Incroyable. Et félicitations. Félicitations à la maman aussi. Comment s'appelle-t-elle? Eh, soyez pas indiscret, hein. Il dit ce qu'il veut, notre ami Jean-Christ. Merci pour tous les petits messages. C'est quoi l'entrisme dans le sport, Gisèle? Merci de ramener la France, Jean-Christ, me dit Clément Polito. Trop bien. Surtout la maman, nous dit Jean-Christ de Bassac, qui a été une vraie warrior et la petite poupée s'appelle Livia. Oh, putain, c'est beau, Livia. C'est magnifique. Livia est née à Bastia, 15 juillet. Livia. C'est très beau, Livia. Connaissais pas. Salut, Moulbit. Attends, Livia. Moi, je suis fasciné par l'origine des prénoms. Quelle est l'origine du prénom Livia? 13 juillet, 13 juillet. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Le 15? Livia est le nom latin porté par une famille importante dans la Rome antique. On peut rapprocher ce nom de l'adjectif latin lividus qui signifie bleuâtre, mais aussi envieux ou jaloux. Ah, bon, on s'en fiche. Le prénom Livia est-il corse? Très attribué en Corse et aussi en Italie. Dérivé de Livius, donc d'une illustre famille romaine. Oh, je vois un petit Solal, mon petit bout de chou de 5 ans qui est en train de descendre les escaliers. Quand il se lève le matin, avant même de prendre son petit déj, il va dire bonjour à tout le monde. Il est incroyable cet enfant. Oui, voilà, il arrive. Oh, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Alerte enfant. Oh, il est trop chou. Vas-y, viens mon cœur. Oh, tu viens me voir. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Ça va mon cœur? Viens. T'as bien dormi? T'as bien dormi? T'as fait un gros dodo, hein? Je suis content de te voir. Est-ce que t'as des piqûres de moustiques ce matin? Quatre? Quatre piqûres? Mais c'est quoi ces moustiques? C'est fou ça. Et on t'a mis la crème? Ok. Je te gratte pas. Tu veux prendre le casque pour dire bonjour à tout le monde? Tiens. T'as vu qui ce matin?
Rodelia et Malo en premier.
D'accord.
Après, Tata Diano qui s'est levé.
Ouais. Et maman?
Et maman, après, je lui fais par la
Ah, c'est
fenêtre
bien ça. Et
parce
Thérèse?
qu'elle était en réunion.
Ah, elle est en réunion, oui, elle avait un Teams ce matin.
Thérèse, non.
Non? Elle est à côté là. Et t'as pris ton petit déjeuner?
On m'a servi, mais non.
On t'a servi, mais non. Tu sais qu'il y a des. Maman est allée acheter du pain et des croissants. Alors, des petits croissants délicieux. C'est une nouvelle boulangerie. Et ils sont incroyables, il paraît. À mon avis, tu vas te régaler. Il faut que tu essayes, d'accord? Et si ça te
J'ai essayé un croissant.
T'as essayé un croissant?
Oui, j'ai pas goûté encore.
Mais t'as pas goûté encore?
Oui.
Si ça te gratte, tu demandes à Rodélia de te remettre de la crème, d'accord?
Oui.
Ah, ok. Je suis content de te voir.
Merci.
Ah, fais-moi un câlin. Oh, tu veux dire bonjour à tout le monde?
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde. Bonjour Solal. Il se réveille. Hein. Ouais, il se réveille là. Il est très content. Et il est très gentil. Mais là, il est tellement gentil qu'avant même de manger le matin, il vient dire bonjour à tout le monde. T'es vraiment un cœur, toi. T'es vraiment un cœur. Fais-moi un câlin. Oh. Regarde les gens, ils disent bonjour. Bonjour Solal. Bonjour Sunshine. Bonjour mon petit. C'est gentil, hein? Ils sont gentils, hein? Bonjour petit loup. Et bon, je vous le montre pas hein, parce qu'on protège les enfants, mais je peux vous dire qu'il est beau comme un cœur. Bisous mon cœur. Je t'enlève ton casque. À tout à l'heure mon cœur. Va manger ton croissant, tu vas voir, il est incroyable. Je te laisse fermer la porte sans couper le câble. Sinon, il n'y a plus de stream. Ah, quel bonheur. Bien sûr. Je te laisse prends ton petit déj. Prépare ta chronique tranquille. Voilà. Il vient, je crois que Solal va venir une petite chronique Brawl Stars ce matin. Bon, eh ben on va y aller sur la revue de presse, hein, bande de beaux gosses. C'est pas tout? On y va? Comment ils ont réagi tes enfants quand tu t'es lancé sur Twitch? Bah, ils s'en foutent. Bah, c'est des petits, ils s'en fichent du travail. Hein. Ils m'ont toujours vu à la télé. Donc, j'étais juste sur un autre écran, quoi. Pour eux, tout ça, c'est un peu la même chose. Merci Tibay, merci Julio Franchude, merci Jean-Christ de Bastia. Merci à tous les trois. Les moustiques, ils détestent l'odeur du Vix.
Ah ouais.
Donc voilà. Mais ils s'en foutent un peu, mais ils ont raison. L'enfant, ça doit être le temps de l'insouciance. Hein. Ils ont bien le temps de penser au travail, tout ça, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes enfants, de ta présentation 2027? Ah, pour la présidentielle 2027? Oh, c'est pareil, ils s'en fichent. Bah, c'est juste que ça impliquera un déménagement, quoi. Mais je pense qu'à l'Élysée, ils doivent avoir des chambres pour les enfants. Moi, moi président 2027, je ferai une salle de jeu avec il faudra un petit peu de jouets, un petit espace pour faire du sport. Il y aura un espace console, bien sûr. Voilà. J'aimerais bien qu'on fasse un mur d'escalade pour les enfants aussi, parce qu'ils ont envie de se mettre à l'escalade. Ouais. Faut que je vois ça. Je verrai ça avec le secrétariat. Ouais. Ils s'amuseront dans les couloirs du souterrain de l'Elysée. Piscine à boules, ouais, bah ouais, on en a eu une piscine à boules, une petite à la maison. On l'emmènera à l'Elysée. Je mettrai ça dans mon duster. Faire chauffer du café moulu dans une assiette et l'odeur les éloigne, pratique en camping. Alors ça, on fait ça pour les guêpes, cataclysme. Nous, le café moulu brûlé, on l'utilise ce soir pour chasser les guêpes. Pour les moustiques, t'es sûr ? Et les modos, ils iront dans la cave de l'Elysée ? Non, MMG. Les modos, je leur construirai un bâtiment à part à l'Elysée, même pas dans la cave, avec des fenêtres et tout. Voilà. Ils auront buffet à volonté. Ils auront une salle de sport. Ils auront des PC avec des cartes graphiques de psychopathes. Voilà. Ils auront la vie de rêve. Ils auront la vie de rêve. Ouais. La vie d'Aloca. Et ils seront tous décorés. Ils auront tous une récompense. Une médaille. Ouais. Il y aura un budget modo dans le prochain gouvernement, dans le prochain budget. Ouais, ouais. Je diminuerai 2-3 budgets pour pouvoir créer un petit budget modo. As-tu pensé au lance-flamme pour les moustiques, méthode radicale mais efficace? Bah, le problème, c'est que j'ai des enfants à la Ster, donc on manie le lance-flamme avec précaution ici. Et toi, le ministre de la Culture, bien sûr. Bah, tous les ministres sont des streamers. On rappelle. Voilà. Tous les ministres seront des streamers. Premier ministre, je sais pas, ça pourrait être qui peut-être Joe quand même. Premier ministre Joe, je dirais. Je sais pas, la défense, on pourrait mettre Lydia parce qu'elle est quand même super forte sur Valo. Tu vois je sais pas, Zira, faudrait lui trouver un truc. C'est quelqu'un qui aime bien organiser. Peut-être ministre de l'économie, Zira. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu pourras ajouter des jours fériés? Ah bah. Ah ouais, je mettrai 10 jours fériés par mois. Par mois. Angle droit, ministère de la Justice. Ouais, validé. Ministère de la Culture, je mettrai Trivia, Little Big Way, bien sûr. La musique, tout ça. Ministre des Armées, Gotaga. Non, ministre de la Défense, j'ai déjà mis Lydia. Et toi, la culture, évidemment. Non, Zera, économie. Obligation de regarder le stream le matin? Non. Il n'y aura pas une obligation législative via une loi de regarder mes streams. En revanche, il y aura un abattement fiscal de 90% pour tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne, tous les subs. Oui. Non. On va faire ça avec légèreté, quoi. Domingo, ministre des Sports, vu que c'est quelqu'un quand même qui est très habile de son corps. Voilà. Voilà. Avec un département spécial, les blessés du sport. Ouais. À l'éducation, je sais pas trop, à l'éducation. Premier ministre, c'était Joe. Antoine Daniel à l'éducation, pourquoi pas? Ouais. Jean Mercier, ministre chargé des relations avec le Parlement, obligé, bien sûr. N'oublie pas de t'autonommer président à vie comme Poutine, c'est prévu, Alastair, c'est prévu. Rivenzi à éducation, je valide. Est-ce qu'on crée une niche fiscale pour les skins valo? Oui. Ah oh bah oui. Rivenzi au sport? Non, non, c'est PA. Viktorovitch, porte-parole. Ouais. Bonne idée. JDG. Non, maintenant la défense, j'ai déjà donné à Lydia. Moment, je mettrais bien un truc pour moment aussi. Moment, je mettrais bien un truc moment. Je sais pas quoi. Non, JDG, la culture, non, c'est étoile. JDG, je trouve un truc obligé. Ministre de Tarkov, ouais, mais bon, ça vient par se voir qu'on veut faire des postes pour les potes, quoi. JDG, ministre des anciens combattants, j'approuve la vanne. Ouais. Agriculture, qui? Le streamer, là, qui a un jardin, là. Ça manque de femmes? Attends, j'ai dit angle droit, j'ai dit trivia, j'ai dit Elidia. Je sais pas si ça manque de femmes, mais toi, tu manques d'oreilles, par contre. Néo, néo, néo. Hein? Il va falloir se déboucher tout ça, hein? Il y a des bouchons de serre humaine, hein? Sérieux, quoi. Jardi Stream, ministre de la Culture. Exactement, ouais. Il est vrai que je n'ai pas entendu go me laver les oreilles. Bah voilà, fais ça. Voilà. Gomard, porte-parole du gouvernement, pas besoin de micro. Déjà, c'est pas très gentil. Et puis, on a déjà mis Clément Viktorovitch. Mais Gomard, bonne idée. Tatiana, la voyageuse aux affaires étrangères. Bim! Une femme de plus, c'est parti. Ninillon. Ah, bah, il y avait Ninillon aussi aux affaires étrangères. Pas mal. Des conseils pour qu'elle soit bien propre? Des petits cotons-tiges avec de l'eau tiède. Bagheera n'est pas française. Bah, je n'ai pas nommé Bagheera, ça tombe bien. Même si je l'aime beaucoup. On a oublié Ponce, on a oublié Ponce. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? J'ai très envie de voir Opécrotte, mais je sais pas où la placer. On peut prendre Opécrotte. Opécrotte, je sais pas, un ministre de l'égalité homme-femme. Hein? C'est un sujet important. Et je pense que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Allez hop. Qui ont même ministre de l'écologie? Qui ont même ministre de l'écologie? Qui est ma ministre de l'Environnement? Merci à Erwan. Merci pour le 13e mois. Merci Tibet pour le 47e mois. Ponce, Ponce. Allez, Ponce. Allez, bim, on a trouvé un ministère pour Ponce. Le maître des fleurs. Ah oui. Et Kamel, et Kameto, et toi, la culture, THMS, quelle question. Rayou, c'est une de mes premières nominations. On le met où, Kamel? Kamel, faut lui trouver un poste en vrai. Ministre de la Défense, bah, j'ai mis Elidia. Kamel porte-parole, j'ai mis Viktorovitch. Ministre de l'e-sport, bim. Kamel, ministre de l'e-sport, bim. Ludovic B, ministre du Travail, un youtubeur, let's go. L'éducation, je ne sais plus qui en a mis. Et anime, anime, on le met où, anime, anime. On le met où, anime. Anime. Rivenzi, on a déjà dit ministre de l'éducation, Rivenzi. Anime, on le met où ? Ministre de la jeunesse ? Ah ouais. Ministre de la jeunesse, pas mal. Ministre de la jeunesse, anime. Ou ministre des relations avec les sponsors ? Anime. Ministre des relations avec les sponsors, comme il a eu des bonnes relations avec les sponsors. Hein ? Comme il a, voilà. Au moins, il va leur parler cash, quoi. Et toi, tu vas où ? Ah ben, moi, je suis président. Moi. Je suis président à vie, moi. Comment ça, il faut quand même des gens intelligents ? Dis donc, le scorpion breton. Hein. C'est pas parce que t'es breton qu'on va te passer toutes tes... T'es en train d'insulter les créateurs de contenu, là ? Anime, ministre des gâteaux et des biscuits, Tom Thompson, j'ai la ref, on valide. Qui est porte-parole du gouvernement ? Viktorovitch. Est-ce que vous avez parlé des propos de Sandrine ce matin ? Avec plaisir, Kevin, mais qui est Sandrine ? Il y a Kevin, Kevin29, qui dit « Vous avez parlé des propos de Sandrine ce matin ?» Et moi, je suis d'accord. Moi, je suis pour. Mais c'est qui Sandrine, par contre ? Jean Massier, relation avec le Parlement, bien sûr. Ah, Rousseau ? Ah ouais, Sandrine. C'est ta sœur ou c'est ta cousine ? C'est comment ça... Sandrine. Et Muriel, on la met quoi ? Bon, Muriel, on le trouvera un poste, t'inquiète. Sandrine. Ouais, ouais, c'est ta voisine, c'est ta meuf. Qu'est-ce qu'elle a dit Sandrine Rousseau ce matin ? Attends, on va aller voir, tiens. Allez, c'est parti pour la vue de presse, on la meurt de raconter des conneries. Sandrine. Ah non, vous avez vu ce qu'a dit Sandrine ce matin ? La Sanson, la Drinrine ? Tu as un petit surnom, pas la Drinrine ? Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Rousseau ? Madame Rousseau, s'il vous plaît. Sandrine, vous êtes où, là ? Eh, oh ! Mais pas au camping, hein ? Sandrine ! Madame Rousseau ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'en ai rien à péter. Ah ? On va se rendre la gueule. J'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs. Ah ouais. Invité sur le plateau du Média pour évoquer la loi du plomb dont on a parlé ici, Sandrine Rousseau a fait sortir de ses gonds de nombreux élus et le monde agricole. Depuis quelques jours, nombreux sont les élus du bloc central à l'extrême droite qui ne décolèrent pas contre la députée écologique. L'objet de leur courroux, une phrase prononcée le 11 juillet dernier par Sandrine Rousseau, Madame Rousseau, s'il vous plaît, pas Sandrine, hein, sur le plateau du Média, alors qu'elle était évoquée la loi du plomb dont on a parlé ici, qui en matière d'environnement et d'écologie n'est pas une très très bonne nouvelle. Alors que la journaliste venait d'évoquer la plaidoirie des agriculteurs en faveur de cette loi au nom de leur rentabilité, la députée de Paris a lancé « Je n'en ai rien à péter de leur rentabilité ». Je pense que ce n'est pas le sujet. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, ça n'est pas la rentabilité en fait, c'est de l'argent sale. Bon, en vrai, elle a dit un sentiment qui est partagé par beaucoup, à savoir que cette loi du plomb n'est pas forcément une très très bonne idée. Manifestement, la polémique, c'est parce qu'elle a dit « j'en ai rien à péter ». Eh ben alors, on sort un peu la langue de bois. Hein, moi, je défends personne, en vrai. Mais sur le fond, à part les agriculteurs, tout le monde est d'accord. Voilà, elle a juste dit « j'en ai rien à péter ». Bah alors. Hein, on sort un peu la langue de bois. C'est pas très grave, vous en pensez quoi ? Hein ? Hein ? Oui ou non ? Oui, une polémique avec du vent. Exactement. Bah moi, je Elle a raison de libérer un peu la parole. Hein ? Dans le fond, elle voulait parler de durabilité et non rentabilité, et dans la forme, c'est pas ouf. Hein. Les agriculteurs sont d'accord, me dit Cocolastico, mais pas la FNSEA, ce qui est différent. Oui, c'est vrai. Il faut bien qu'ils bouffent les agriculteurs aussi, mais il y a d'autres moyens de les aider, les agriculteurs, hein, que forcément de revenir en arrière, notamment sur les insecticides. Il y a une autre façon de les aider, je pense. Je ne suis pas sûr que l'argument On va remettre les insecticides, ça va sauver nos agriculteurs. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure façon de soutenir nos agriculteurs, parce qu'il faut le faire par ailleurs, quoi. Donc je trouve, pardon, hein, je vais être un peu violent, je trouve un peu abusé d'opposer, comme je le vois dans le chat, suicide d'agriculteurs et nécessaire loi du plomb. Pardon. Hein. Voilà. J'ai vu plusieurs messages en ce sens en disant ah oui, mais et les suicides. Je pense qu'on peut aider les agriculteurs différemment, plutôt qu'en réintroduisant l'insecticide controversé. Voilà, toutes les enquêtes sérieuses le disent, tous les agriculteurs sont prêts et enthousiastes à une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, dit Dessen, mais il faut que les agro-industriels et la loi du marché leur permettent d'en vivre. Voilà. Oh Camille, c'était pas pour toi, Camille. C'était pas pour toi. T'inquiète. Il y avait plusieurs messages en ce sens, quoi. Mais je trouve que je suis pas sûr que ce soit le bon argument. Voilà. Bon, on a la loi du plomb, on en a déjà. Je vous lis. Hein. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a toujours des gens qui affirment détenir la vérité. Comme Razog, je m'en prends pas à toi, mais Razog écrit « Tous les études le disent MDR, vous n'êtes jamais parlé à un agriculteur ». Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens toujours qui connaissent un agriculteur ou même qui sont agriculteurs et qui disent « C'est faux ce que vous dites, la preuve, moi ». Ou la preuve, l'agriculteur, mon voisin que je connais. Sauf que ça ne veut rien dire, l'agriculteur. Les agriculteurs sont divers. Et comme le dit Pierre Witt, juste en dessous de ton message, Razog, « Je vis en Creuse et le débat est vif ». Entre gros agriculteurs à grande exploitation et petits agriculteurs qui essayent de bien faire. Et les petits agriculteurs, on ne les entend pas. Voilà. Donc. Tiens. Ox Le Broche TXO qui a bossé un peu sur le sujet nous dit par exemple les insecticides sont surtout pour les betteraviers hein, qui sont majoritaires à la FNSEA, majoritairement à la FNSEA. Les autres syndicats lors de différents débats ont bien expliqué qu'une augmentation de 5 euros la tonne de betterave est suffisante pour se passer des néonicotinoïdes pour la survie des betteraviers. Vous voyez hein, les agriculteurs sont. Ça ne veut rien dire les agriculteurs. Mais on a lancé un sujet, là, c'est intéressant. Ah, je suis fils d'agriculteur, me dit Indicuche, et chez moi, ils pètent un plomb, et ils ne sont pas d'accord. Hein. Seuls les gros agriculteurs sont OK avec ça, mais ce sont les pires. Vous voyez ? Ne parlez pas à la place des agriculteurs, les gars. Hein. Tiens, la Mandalorienne, en tant qu'agricultrice, je suis contre cette loi du plomb / FNSEA qui n'est faite que pour les gros céréaliers. Bon. Toutefois, je ne peux pas mettre sous le tapis le fait qu'on demande aux agriculteurs français de laver plus blanc que blanc quand, dans les pays de l'Union, certains produits sont encore autorisés. Sans compter la merde que l'on va faire entrer via le Mercosur. La mandarine, je ne peux pas te donner tort. Je ne peux pas te donner tort. Et si on va par là, me dit Émilie, moi je suis infirmière libérale et combien je vois de cancers chez les agriculteurs et les habitants vivant à côté des cultures. Mais pas grave, on continue comme ça. Alors qu'il est tout à fait possible et certainement de combiner écologie et agriculture. Commençons par augmenter les salaires des paysans. Merci Sulivé. Merci Funti. Merci du reçu pour le raid que je n'avais pas vu. Pardon. Merci du reçu pour le raid. Vous étiez sur quoi ? Merci Kratos. 8 ans déjà. Rappelons que la loi Duplomb, c'est Monsieur Duplomb qui était un sénateur qui est un sénateur, qui est un agriculteur et qui est le porte-parole de la FNSEA depuis des années, hein, pour que ce soit vrai. C'est assez clair quand même. Quand je dis porte-parole, c'est que, enfin, le lobbyiste, quoi, si vous préférez. Je vous lis. Non, il est sénateur du plomb, il n'est pas député. FNSEA, me dit Oli, c'est plus des chefs d'entreprise que les agriculteurs. Salut Alester. Bon, eh ben oui, on n'a pas commencé la revue de presse, on a déjà commencé un petit peu à parler d'actualité. Merci à la personne qui m'a porté à ma connaissance cette déclaration de Madame Rousseau. Mais c'est pas un sujet qu'on va épuiser ce matin, parce que comment soutenir nos agriculteurs tout en leur demandant d'être plus respectueux de l'environnement, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet. Moi, je vous promets que si je trouve des biscuits dans les semaines, les jours, les semaines, les mois qui viennent, un peu de fond pour comprendre comment l'agriculture française peut s'en tirer tout en économiquement. Sur un plan de rentabilité, tout en respectant l'environnement, c'est vraiment un sujet de fond. Je vois que ça vous intéresse beaucoup d'ailleurs, et vous avez raison de vous y intéresser. Équation difficile à résoudre, Razog, oui, c'est comme la question de la dette, par exemple, dont on a parlé longuement hier. Mais de temps en temps, il faut prendre le temps. Salut Samuel, j'ai loupé quoi? Je viens à peine de me lever. Alors, tu n'as rien raté vraiment, sauf un échange assez intéressant sur l'agriculture française, parce qu'on n'a pas commencé vraiment la revue de presse. Sam, tu parles de biscuits, j'ai entendu le même terme dans le film Rapace qui parle de la presse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, avoir des biscuits, c'est une vieille expression, une expression de vieux, ça. Avoir des biscuits, c'est avoir de la matière. Avoir de matière à réflexion, par exemple. Voilà. Merci Vincent Sixième. Merci Médalor. Merci à tous les deux. Le problème derrière, c'est que ça manque de recherche, me dit Poum. Lorsque des produits sont interdits pour de bonnes raisons, ça n'est pas le sujet. Il n'y a aucune alternative de proposer, donc les agriculteurs doivent se démerder. Oui, avoir des arguments, c'est ça, ouais. Avoir des billes, voilà. Avoir du content, voilà. Donc c'est pas des vrais biscuits, moi j'ai arrêté les biscuits. Samuel, tu penses quoi des jours fériés qui vont être probablement supprimés? Moi, président de la République, je mettrai 20 jours fériés par mois. Voilà, je laisserai les week-ends, donc ça fait 20 plus 28, il restera 3 jours de travail à peu près. Mais on se posera 2-3 RTT. Pour augmenter le salaire des paysans, il faudrait qu'on fasse tous nos courses en circuit court. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas se le permettre, me dit Mafaléa. C'est insoluble, me dit la Mandalorienne, si les politiques ne se mobilisent pas sérieusement. On demande aux agriculteurs de s'asseoir sur leur gagne-pain sans leur proposer d'alternatives, tout en laissant faire n'importe quoi à certains pays au sein même de l'Union européenne. Cela ne peut pas fonctionner. N'importe quel agriculteur voudrait ne pas avoir à manipuler ce genre de produits. En télétravail, 3 jours qui restent? En RTT. Je vous lis. Oh, Melissa Japon, notre DJ préféré du Japon, vient de nous raid si vous cherchez une chaîne musicale cool. C'est une Française, si je ne dis pas de bêtises. Melissa, tu es Française qui vit au Japon et qui est DJ. Merci Melissa. Je vous lis. Japonaise, Mélissa ? Pardon, japonaise. Mélissa est japonaise. Je savais que j'étais pas sûr de moi là sur ce coup-là. Bon, les amis, merci pour cet échange sur l'agriculture qui m'a au moins mis en tête le fait que la prochaine fois que je trouve des articles un petit peu de fond pour essayer de voir comment on peut imaginer une agriculture économiquement viable pour ceux qui travaillent dans ce secteur tout en respectant l'environnement est possible ou pas. J'essaierai de vous trouver des articles là-dessus. Ouais. Que penserait le Samuel de 20 ans du Samuel, le Samuel actuel streamer ? Il penserait quel beau gosse ! Il penserait quel beau gosse ! Il penserait « Ah, t'as réussi à arrêter de faire la fête non-stop et de boire des coups avec les potes et t'as fait quelque chose de ta vie. » Il penserait ça. « Waouh ! T'as vraiment upgradé, quoi. » Merci Sugar d'apaiser un peu les esprits. Tu es le meilleur. Melissa Japon, mon père est français et a migré au Japon depuis très longtemps maintenant. Ok. Non. Tomo Saté, salut Samuel. As-tu déjà songé à mettre de la musique type Lofi au fond de tes streams? Ce serait super cool. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible en musique. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible de mettre de la musique. Donc on va mettre un petit peu de la musique cool. Voilà. Voilà. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Petite musique, revue de presse. Donc, on va parler du Proche-Orient. Hein. Rien ne va plus dans la bande de Gaza. Les frappes israéliennes se poursuivent. Le bilan humain est désastreux. Voilà. Les ONG sont catastrophées. Voilà pourquoi. CQFD. Non, la musique sur l'actualité, non. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'idée du siècle. Quoi. Ouais. Non, c'est pour certaines actus, ça pourrait passer, mais pour la plupart des actus que j'évoque, pas trop, quoi. Par contre, vous pouvez mettre la musique que vous voulez en arrière-plan. Bon, les amis, une heure d'intro, ce qui est pas mal. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse un petit sommaire pour vous dire de quoi on parle ce matin ? Hein ? Et bienvenue à tous les nouveaux. Merci Mélissa encore pour ton raid. Oui, go, let's go. Allons-y, allons-y. Ok, d'accord, MMG, qui, comme moi, est quasiment centenaire. Vamos. Ah oui, il faut que je branche l'iPad d'abord. Pour l'instant, c'est El Gato, no signal. No, El Gato. No. No, El Gato. No, c'est bueno. Morito? Que se pasó? El Gato? No, José. No, José. No, c'est bueno. Kinder bueno? Jotek et des compagnies, vous arrêtez d'emmerder Sugar Frog. Hein, sinon, vous savez ce qui va se passer. Hein. C'est fou, ça. On n'embête pas les motos. Hein. On va prendre une tisane, surtout. Hein. Vous en donnez, moi. De l'énerver du matin là. Allez bon, alors est-ce que ça marche ? Ah, il est pas branché. Oh, je fais n'importe quoi, c'est pas le bon câble. Pff. me fais pas rire au travail, Samuel, je vais me faire cramer. Salut Framboise, ça va? Moi, ça va, c'est entre eux. Je sais, Sugar, je suis depuis tout à l'heure. Je sais, mon Sugar, je sais que tu essaies de les apaiser. Alors, viens, petit Elgato. Oh, le roi de l'informatique. Bon, pourquoi c'est noir? Voilà, c'est bon. Let's go. Sinon, c'est dans le Death Note. Hein. Tiens, d'ailleurs, je suis pas allé voir le... Je suis pas allé voir les derniers noms dans le Death Note. Et on le fait ensemble, on va rigoler, non? Bah, que j'ai la ref. Il est où mon Death Note? Ça, c'est mes notes sur Bayrou. Là. J'ai 6 pages de notes sur Bayrou. Là. Ça, c'est les chroniques des enfants. On va le faire en direct. Mais si, on va commencer la revue de presse, t'inquiète. Ah, c'est là. Ah, il est là, le tribunal des... Ça, c'est les idées de stream pour l'année prochaine. Je n'ai pas décidé encore. Ça, c'est le Death Note. Allez, c'est parti. Attends, ah, il y a... le problème, c'est... Ah, Death Note, c'est quand je note des prénoms des pseudos de gens qui se comportent pas très bien dans le chat. Après, parfois, je note mal les pseudos. Et à tête reposée, Ah ouais, mais tu vois, là, je me suis gouré sur l'un des pseudos, quoi. Merde. Ouais, c'était A-A-A-A-A-A-A-A-366, mais j'ai raté un A. Ouais. Bon, bah, lui, on va pas pouvoir le Death Noter, lui. Ah si, je l'ai retrouvé. Alors, 10 messages. Donc là, c'est que c'est... Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui s'est... C'était hier ou avant-hier. Bon, bah non, bah y a rien. Y a rien. 10 messages, mais rien de méchant. C'est juste que j'ai pris la mouche quand A-A-A-A-A-A-A-366 a dit « C'est tes enfants ou tes petits-enfants ?» Bon, bah évidemment, voilà, le pauvre, il a juste... si ça se trouve, il pensait vraiment que, voilà, que je suis trop vieux, quoi. On va pas le ban pour ça. Allez, ça banne pas. Rodil, R-O-D-Y-2-L. Allez. Ouais, je banne très peu. Souvent, je vais voir, puis je dis, bon, non, en fait, elle est bonne. Rodil. Alors, Rodil, qu'est-ce qu'il a dit, Rodil? Ah, ça sent l'OP. Ah oui, oui. Dès que je parle d'un sujet, toujours des gars qui disent, ah ouais, ça sent l'OP. Vous vous rappelez sur quoi c'était? On parlait de quoi? On parlait de... Je sais plus de quoi on parlait. Et puis, il y a Rodil qui a lâché. Oh, ça sent l'OP, ça. Vous vous rappelez? Ouais, sur PlayStation 5. On parlait de PS5, je crois. Et il dit, ouh, ça sent l'OP. Ouh, ça sent la moula, ça sent la thune. Voilà. Bon, en vrai, c'est pas méchant. C'est con, mais c'est pas méchant. Donc, on banne pas. Et là, j'ai un Jabroni 4F. Voilà, je l'ai sûrement mal marqué. Ouais, ça banne pas beaucoup ici. Hein. Alors, Jabroni 4F. Je suis pas sûr que ce soit ça. Ah si, putain, mais je note bien en vrai. 65 messages. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Souvent en plus je les avertis, je leur dis calmez-vous machin parce que c'est Death Note. Et donc du coup, souvent après, ça se calme quoi. Bon bah je vois même pas. C'est quoi les messages? 15 juillet. Ah, mais il écrit trop, lui. 15 juillet, allez, c'est parti. Attends. Ah oui, Jabroni, journaliste subventionné et complaisant. Il parlait des journaux que je lis le matin. Le Monde, Le Parisien, Libération, Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Les fameux journalistes subventionnés et complaisants. Voilà. On met tout le monde dans le même panier, tous pourris, blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà, et puis de toute façon, bon. Ouais, c'est genre. Oh le... Oula, Luma. Ouais, ouais. Bon. Après, il s'est calmé, effectivement. Ouais. Quel baratin, je ne sais pas s'il parlait à un viewer ou à moi. Ouais, c'est pas foufou. Ouais, c'est pas. Parfois, tu comprends même pas les messages, quoi. Ça écrit beaucoup, hein. Ça écrit beaucoup, hein. Ouais. Ça écrit parfois 4 messages par minute, quoi. Ça, c'est. Pour pas dire grand-chose, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas méchant, c'est pas foufou non plus, mais bon, voilà. Mais en même temps, c'est pas un motif de ban non plus. Hein. Voilà. Bon, j'ai encore ban personne. Voilà. C'est tout le problème de traiter ça à plusieurs jours après. T'as pas le complexe. Ouh, le contact, t'inquiète, je m'en rappelle. Moi, il n'y a aucun problème. Je me rappelle très bien. Moi, les pseudos, ils sont inscrits dans ma tête. Je me rappelle très, très bien. Là. Je me rappelle très bien que c'était pas foufou, mais que c'était pas non plus. C'est pas un motif de ban non plus. Hein. Tu peux ban dev quelqu'un au hasard qu'on rigole ? Bien sûr, Fred Automassi. /. /ban Fred Automassi au hasard. Quels sont les motifs de ban ? Oh bah déjà, racisme, homophobie, sexisme, discrimination de toutes sortes, antisémitisme. Ça, c'est assez direct. Voilà, et puis les gens qui sont un peu. Qui sont des gens qui sont agressifs avec les modos, agressifs avec les viewers. Tu vois ? Voilà. Point d'exclamation. Je crois qu'on a une charte ici, c'est quoi ? Modération. Ouais, si on parle de mes veuches aussi. Ça banne aussi, quand on parle de ma calvasse. Pour l'exclamation de modération, voilà. Toutes les opinions sont acceptées ici. Les opinions légales et exprimées avec respect ou propos racistes, /homophobes, /sexistes, /discriminants sera évidemment supprimé et son auteur susceptible d'être banni. Voilà, on fait ça. Mais ça banne pas beaucoup. Hein. Je crois que je suis utilisateur suspect ici. Pas du tout, IndyCush, tu es nickel. T'as rien. T'as rien, mon chouchou. Voilà. Tu souffres peut-être du syndrome du personnage principal, par contre. je suis vraiment un monstre. Ouais. Désolé. Je pense que je suis utilisateur suspect ici. Non, même pas. Désolé. Bon, on y va. Allez, le sommaire. Putain, du coup, où est-ce que j'ai mis là? Merde, j'ai perdu mes notes d'aujourd'hui. Quel jour on est? Mercredi? Quel jour on est aujourd'hui? Jeudi, merde. J'ai mis du coca sur mon iPad, c'est pas grave, c'est du coca zéro. Jeudi. Ah, c'est bon, c'est bon, j'ai retrouvé. Je t'adore vraiment, mais je représente les Normands. Le Mont-Saint-Michel, c'est à nous. Non, manqué, le Mont-Saint-Michel, on vous l'a laissé parce que vous n'avez rien, les Normands. On a un peu pitié. Allez, c'est parti pour le sommaire. On va évidemment revenir un petit peu sur le projet de budget. Ça n'est qu'un projet de budget de François Bayrou qui sera discuté à l'automne par le Parlement. Ça n'est que la première étape de ce truc. La Croix est assez didactique, pédagogique ce matin et revient de façon assez claire sur les enjeux. Budget, le pari risqué du plan Bayrou. Les mesures annoncées pour redresser les finances publiques sont considérées comme nécessaires par les uns. Tandis que d'autres critiquent leur injustice. Voilà, dossier assez bien fait dans La Croix. On verra ça. Les Normands, t'inquiète, je m'occupe de vous. La une du Figaro qui fait un petit focus sur les jours fériés. Hein, regardez. La suppression des jours fériés, point de discorde du budget. Cette mesure choc du plan de François Bayrou pour redresser les finances du pays suscite déjà une pluie de critiques alors même que ses modalités de mise en œuvre restent floues. Voilà. On lira l'édito aussi qui montre bien le regard du global du Figaro sur ce texte. En mode, ouais, c'est pas assez, il fallait taper les chômeurs, il fallait taper un petit peu les malades, tout ça, vous verrez. Les jours fériés, c'est une honte, mais surtout un contre-feu. Schizoïde, tu as raison, plusieurs journaux disent ça ce matin, que c'est un petit peu un contre-feu pour finalement que les gens focusent sur... les jours fériés ne regardent pas trop le reste. Voilà. On en parlera tout à fait ce matin. Bien vu, mon ami. Ben, les malades, ils ont pris un peu déjà. Ouais, défécateur, mais le Figaro voudrait plus. Voudrait plus. Voilà. Je ne comprends pas le lien entre le budget et les jours fériés. Retais, je t'expliquerai tout à l'heure. Donc ça, c'est le Figaro. On se penchera aussi sur les critiques de l'opposition. Sur ce texte, sur ce projet de texte, ce n'est pas encore un texte. On ira sur le sujet lire un édito, vite fait, dans Libération, qui consacre également sa une encore à Bayrou. Bayrou ne fait pas recette avec les critiques de l'opposition, de la gauche, mais aussi du RN. Et on ira un édito pour voir un petit peu le regard de Libération sur tout ça, et notamment sur la stratégie de Bayrou qui va être peut-être de rechercher à l'automne prochain le soutien, les voix de la gauche. Et donc, en s'ayant laissé. Bref, il s'est mis des biscuits de côté pour discuter avec la gauche. Et ce serait un peu de la stratégie. Assez intéressant. Et puis, on ne parlera pas que de Bayrou ce matin. Voilà. Encore les biscuits, ouais. On parlera de Christophe Glaize. Christophe Glaize est un journaliste français, un passionné de football, passionné de l'Afrique, qui s'est fait arrêter en Algérie, qui a été condamné, je me demande s'il n'a pas été condamné à 7 ans de prison. Voilà. Et il y a une mobilisation qui commence, là. Le Parisien en parle, page 15, ce matin. Pour obtenir sa libération. Le cri du cœur des proches de Glaize. Mobilisation pour le journaliste condamné à 7 ans de prison en Algérie s'est tenue ce mercredi. Hein, il a été condamné pour rien. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. C'est un sujet que je suis avec beaucoup d'attention. Le Parisien nous explique un petit peu. Voilà, dans les pages sport, oui, dans les pages sport, parce que c'est un fou de sport et de foot. Il a été condamné dans le cadre d'un reportage sur le football algérien. Donc, ce n'est pas complètement insensé que ce soit dans les pages sport. Le sport, c'est pas du caca, le sport. Hein. Et puis, dans Le Monde, il y a une pétition signée par 80 personnalités qui vient d'être publiée. Un début de mobilisation. Hop, c'est là, pardon. Ici. Libération de Christophe Glaize en Algérie, l'appel de plus de 80 personnalités, donc de plein d'horizons, hein. Cinéma, information, sport. Donc Catherine Deneuve, Yann Barthès, Benjamin Biolay, le journaliste français de 36 ans, collaborateur de SoFoot et Society, a été condamné à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Tizi Ouzou, peine infondée, selon ses proches, selon l'ONG Reporters sans frontières et selon toutes ces personnes, ces personnalités qui ont signé cette pétition. Donc voilà, essentiellement des gens des médias, des gens du sport, du football, des arts aussi. Voilà. Boualem Sansal, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne déjà. Hein. Mais là, on fait un focus sur Christophe Glaize ce matin. Tu as signé toi ? Ouais. Bah, Théo, moi je suis un des signataires, effectivement. Est-ce que tu peux faire une dédicace à ma petite sœur Alban Papissam ? Bien sûr, Blackwater. Alban, spéciale dédicace pour toi. Signé Papissam. Sochaux-Auxerre, sur cette affaire, il a joué, il a perdu. Désolé pour lui. Donc le mec a pris 7 ans de prison parce qu'il voulait écrire un papier sur le football algérien. SoFoot a trop longtemps soutenu l'Algérie pour se plaindre maintenant. Ok. Je propose qu'on échange Sochaux-Auxerre contre Christophe Glaize. Dans une prison algérienne qui y passe 7 ans. Voilà, moi j'ai trouvé la solution. Je vais appeler le Quai d'Orsay pour dire voilà, on a une solution. On vous propose Sochaux-Auxerre dans notre chat qui veut bien prendre la place de Christophe Glaize, puisque 7 ans de prison. Hein, c'est pas. Hein, il a joué, il a perdu. Hein. Bah toi aussi, t'as perdu là. Adjugé, on fait ça ? Tu nous en veux pas, Sochaux-Auxerre ? Hein ? Comme 7 ans de prison, ça part de grand chose. Tu vas peut-être les faire. Allez, excusez-moi d'être méchant, mais là, c'est un petit peu énervant quand même. C'est fou, ça. Le mec, il a pris 7 ans de prison parce qu'il a fait un article sur le foot. Et un mec qui dit tant pis pour sa gueule, hein. C'est dingue, ça. Tiens, d'ailleurs, je vais te mettre dans le Death Note, toi aussi, j'irai voir. C'est quoi ton prénom ? Quoi ton pseudo ? Sochaux-Auxerre, comment ça s'écrit, ça ? C'est fou de dire des dingueries comme ça, en vrai. Néo, monsieur ? C'est fou de dire ça quand même. Et non, on Death Note. C'est quand même dingue de dire ça. Donc Sochaux comme Sochaux. Auxerre comme Auxerre. Tu soutiens les deux clubs? En soi, c'est bien. Par contre, ta phrase, elle est ouf. En tout cas, merci d'avoir soutenu cette décision inique de la justice algérienne qui vient de condamner à 7 ans de prison un journaliste pour un article sur le football. Ouais, c'est assez intéressant comme analyse. Ouais. On parlera donc de Christophe Glaize ce matin, de cette mobilisation pour essayer de le faire libérer, plutôt que de dire tant mieux pour sa gueule, quoi. Et puis, on parlera de quoi encore? On parlera... j'adore cette série Dans la Croix. Dans la Croix, il y a une série sur la futurologie. Voilà, la Croix se projette dans 30 ans et essaie d'imaginer à quoi pourrait ressembler notre pays, notre société, le monde dans lequel on vit. Hop, c'est donc Dans la Croix, page 20. On a imaginé, il y a quelques jours avec la Croix, un monde où plus personne quasiment ne prenait l'avion. Pour des raisons d'environnement écologique, voilà. Où le prix des billets d'avion avait explosé, avec les conséquences sur l'environnement, sur l'écologie, et les conséquences aussi sur le transport, sur le tourisme. Donc c'est totalement de la fiction, hein, c'est complètement imaginé. Et ça avait fait beaucoup réagir. Et là, il y a un autre volet. Voilà. Et si l'intelligence artificielle envahissait nos vies, donc s'il y a vraiment été vraiment hyper présent au quotidien, là, on se projette en 2060. Et alors, c'est totalement de la fiction. Hein, c'est la vie d'une dame, d'une jeune femme qui s'appelle Victoria, dans laquelle l'IA est totalement présente. Et on est plus proche du roman. Hein. Vous n'avez pas l'article. Que de l'article. Hein. On part de l'info, qui est la progression de l'IA dans notre société, et après on imagine les choses. Et c'est vraiment bien fait. C'est vachement... Voilà. C'est étonnant. Voilà, je trouve ça assez brillant. Après, c'est totalement inventé, donc ça peut être complètement faux, bien sûr. Voilà. Donc ce matin, on est sur beaucoup... Bayrou, ça me semble l'information un peu importante du moment. On va parler un petit peu de Christophe Glaize, voilà, pour voir où on en est la mobilisation de ce journaliste français qui a pris 7 ans de prison pour avoir voulu écrire un article. Et puis on parlera un petit peu d'IA. Voilà. Pas mal, Étienne, hein? Voilà, je préfère plutôt que multiplier les... Parfois, il n'y a pas une multiplication d'informations nouvelles par rapport au jour précédent. Je préfère faire des focus comme ça sur certains sujets, sachant que demain, on aura sans doute d'autres informations. Voilà. Voilà, je suis toujours attentif, par exemple, aux nouvelles informations qui concerneraient Gaza et l'Ukraine. Et si je trouve des articles demain, bien sûr, je vous les lirai. Est-ce qu'on lit Go? Vous êtes prêts? Bande de beaux gosses? Merci Antigma pour le 9e mois. Merci Wallart pour le 47e mois. Samuel qui nous dit que demain il y a de nouvelles informations. Exactement. On peut commencer par l'IA? Non, on finira par l'IA. Allez, let's go. Vas-y papy, merci pour les encouragements pour les personnes âgées. C'est adorable. Ouais, la Syrie, j'attends demain. La Syrie, j'attends d'avoir des informations un petit peu... des articles un peu plus construits sur la Syrie. Ouais, demain, il y aura sûrement de la Syrie. Carrément, carrément. Demain, vendredi, puisque demain matin, vendredi, il y aura une revue de presse. Allez, partons avec Bayrou pour commencer avec La Croix. Pour ceux qui ont raté un petit peu les informations sur Bayrou, ça, l'avantage, c'est que le dossier résume bien ce qu'il y a dans... non pas le projet de loi, on attend le projet de loi, ce sera à l'automne, mais le discours de Bayrou annonçant le projet de loi. As-tu vu Superman? Non. Par contre, j'avais un article ce matin qui disait que c'était un vrai succès au box-office. C'était en train de tout casser, le Superman. Là. Merci, Florel. Le pari risqué du plan Bayrou, les mesures annoncées pour redresser les finances publiques sont considérées comme nécessaires par les uns, voilà, tandis que d'autres critiquent la justice. Georges Ibrahim Abdallah a été libéré? En vrai? Attends, Georges Ibrahim Abdallah, il a été libéré? C'est tombé là? oui, c'est tombé ce matin, vous avez raison. Ah, c'est un vieux truc, ça. Radio France Internationale, où j'ai travaillé 5 ans quand j'étais jeune journaliste. La justice française ordonne la libération du militant libanais pro-palestinien Georges Abdallah. Oh, c'est un vieux truc, ça. Cyril me dit c'est le plus ancien détenu de France. C'est sûrement un des plus anciens détenus, ouais. La justice française, c'est l'humanité notamment, qui se bat pour la libération de ce militant libanais pro-palestinien depuis des années. La justice française a ordonné ce jeudi la libération du militant libanais pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah, condamné en 87 pour l'assassinat de diplomates israéliens et américains à Paris, considéré comme l'un des plus anciens détenus de France après 40 ans de prison. Alors là, c'est un vieux truc ça. On s'arrête un instant là-dessus, on est dans l'histoire, on est dans l'actualité. Ça vient de tomber, prime à l'actu, comme on dit sur certaines chaînes info. Là. La libération du Libanais Georges Abdallah, incarné depuis plus de 40 ans, interviendra le 25 juillet. La Cour d'appel a rendu sa décision lors d'une audience non publique au Palais de justice à Paris en l'absence de Georges Abdallah, 74 ans, détenu à la prison de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. La Cour d'appel de Paris a en effet jugé sa détention disproportionnée par rapport au crime qu'il a commis et jugé qu'à 74 ans, ce détenu âgé aspirant à finir ses jours dans son village du Nord-Liban ne présentait plus de troubles, de risque de troubles à l'ordre public. Une décision qui confirme celle du tribunal d'application des peines intervenue en novembre 2024, mais qui avait été suspendue par un appel à l'époque du parquet antiterroriste. Alors on va se pencher sur sa condamnation, sur ce qui lui était reproché, bien sûr. Cette libération, en revanche, est soumise à une condition qu'il quitte définitivement le territoire français. Voilà. On sait que Georges Abdallah devrait être emmené par les forces de l'ordre à l'aéroport de Tarbes, direction Roissy, où il prendra un vol pour Beyrouth. Le Liban, qui réclame sa libération aux autorités françaises depuis des années, prend en charge l'organisation de son retour. C'est à la fois une victoire judiciaire et un scandale politique qui ne soit pas sorti plus tôt à cause du comportement des États-Unis et de tous les présidents français, a réagi son avocat. Georges Abdallah, ancien chef d'un groupe de chrétiens libanais, marxistes, pro-palestiniens, était incarcéré depuis 1984, libérable depuis 25 ans, et c'est le fait qu'il n'ait pas été libéré pendant 25 ans qui a été critiqué par ses proches, par ses partisans. Toutes ces demandes de libération avaient échoué. Voilà. Les États-Unis, notamment, s'opposaient vigoureusement à sa libération et ses partisans disaient désolé, la justice française, en fait, est au sol des États-Unis, quoi. Georges Abdallah, lui, se considérait comme un prisonnier politique. Georges Abdallah n'a jamais reconnu son implication dans des assassinats de diplomates à Paris. Le chat est difficile ce matin ? Non, Clémalto, oui, comme ça tous les matins. Bonjour, on s'habitue, force modo. C'est l'actualité, on n'est pas sur du Mario Kart, donc c'est un peu plus tendu, quoi. On est habitué maintenant. Voilà. Force modo, essayez de tenir quand même, quoi. Donc lui n'a jamais reconnu son implication dans les assassinats de diplomates, mais il a toujours qualifié d'actes de résistance contre l'oppression israélienne et américaine dans le contexte de la guerre civile libanaise et l'invasion israélienne au sud Liban en 1978. Tout ça nous ramène au conflit israélo-palestinien. Georges Abdallah a longtemps été considéré à tort comme responsable des attentats terroristes de 85-86 à Paris, ça c'est autre chose. Les véritables responsables des pro-iraniens avaient été identifiés 2 mois après sa condamnation à perpétuité. Voilà. On a un dossier de RFI, qui est un média plutôt OK, que je connais bien pour y avoir travaillé pendant 5 ans, Radio France Internationale. Pourquoi Georges Abdallah est emprisonné depuis plus de 40 ans ? Un petit contexte historique. Comment, c'était un article de juin 2025. Comment expliquer le maintien en détention du militant libanais pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah, condamné pour complicité d'assassinat en 1984 de diplomates américains et israéliens en France, pour complicité d'assassinat, emprisonné depuis 41 ans, libérable depuis 26 ans. La prochaine décision de justice devait avoir lieu ce 19 juin. Bon, ça, c'est un article, ça, c'est une photo d'archives qui date de 86. Et la question que posait RFI au début de cet article, c'est La justice française reçoit-elle des pressions pour ne pas libérer Georges Abdallah, incarcéré depuis plus de 4 décennies en France ? Le militant libanais condamné en 87 à la réclusion à perpétuité pour complicité assassinat en 82 de deux diplomates, donc deux diplomates, l'attaché militaire adjoint américain Charles R. Ray et le deuxième secrétaire de l'ambassade israélienne Yaakov Barsimantov, voilà, libérable depuis 25 ans, toutes ces demandes de libération avaient échoué. Son avocat disait depuis longtemps, ne pas le libérer, c'est céder aux pressions des États-Unis. Les États-Unis se sont permis de s'ingérer dans la souveraineté française, de donner des ordres à la France et au pouvoir politique français. C'est ce que disait un journaliste libanais, Pierre Abi Saab. C'est une vision impérialiste du monde. C'est une revanche, une vindicte. Jusqu'au bout, c'est Georges Abdallah qui paye pour tous les peuples qui se sont rébellés et se rebelleront contre les États-Unis et sa politique, son hégémonie dans notre région, donc le Proche-Orient et le Moyen-Orient, et dans le monde. Depuis le début de cette affaire, qui est donc vieille depuis 40 ans, c'est une vieille affaire. Hein. La défense de Georges Abdallah voit la main de Washington. Pff, Alester, tu régales. Alester, merci pour le 10 abonnements offerts à la commu. Tu es un ange. Merci Marvel, Bazedash également. Merci. Voit depuis 40 ans, la défense de Georges Abdallah voit la main de Washington dans son maintien en détention. C'est intéressant. Il y a un diplomate américain qui témoigne. À mon arrivée à l'ambassade de France à Paris en 86, en tant qu'officier antiterroriste au sein de la section politique, l'affaire Abdallah est devenue ma priorité absolue. Conflit confié à RFI, un diplomate américain qui s'appelle Steve Cachette. À ce stade, il était clair pour nous à l'ambassade que le gouvernement français, qui cherchait à éviter le terrorisme au Moyen-Orient contre des cibles françaises, n'avait absolument aucune intention de poursuivre Abdallah de manière agressive. Dès lors, les États-Unis décide de se porter partie civile et engage le célèbre avocat français George Kijman pour les représenter. Depuis ce jour, il semble que le gouvernement américain a systématiquement combattu la remise en liberté de George Abdallah. La liste des pressions exercées par Washington dans cette affaire judiciaire s'accroît au fil du temps. Les États-Unis estiment depuis toujours que ce militant libanais représente une menace pour eux, quand bien même il a aujourd'hui 74 ans. L'article est vachement clair. Hein. Vous le trouvez en 2 secondes sur RFI, là. Bon, manifestement, il y a des documents déclassifiés qui montrent que régulièrement, effectivement, les États-Unis font pression sur la France pour que, qu'il ne soit pas libéré. Quoi. Les révélations fournies par Wikileaks, par exemple, vont dans le même sens que les documents déclassifiés. Parmi les dizaines de demandes de libération conditionnelle de Georges Abdallah, celle de 2013, les documents révèlent un message envoyé par Hillary Clinton, qui est secrétaire d'État à l'époque, à Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères. Hillary Clinton qui demande au gouvernement français de trouver un moyen pour empêcher toute remise en liberté du militant. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, ne signera pas l'arrêté d'expulsion. Abdallah était selon la terminologie employée par ses défenseurs, le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Voilà. Sera-t-il libéré ? Donc voilà, maintenant on sait qu'il va être libéré. En 2021, la Cour européenne des droits de l'homme estimait que les peines de réclusion à vie, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 40 ans d'incarcération, étaient incompatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, malgré le droit qui le dit libérable, cet homme que beaucoup de monde a oublié finira-t-il ses jours en détention au nom d'un intérêt particulier, mais jamais vraiment identifié. L'article de RFI est d'une grande qualité. Hein. Voilà. Et du coup, l'humanité en parlait ce matin. Et je vous ai pas mis l'article de côté, donc je vais vous le chercher. Attendez, par contre, il faut que je me connecte à Internet, parce qu'il faut que je recharge le... Bon, écoutez, on rajoute une information ce matin qui me semble assez intéressante. Voilà. Et on va voir. Alors, l'humanité, c'est un journal qui en parle très régulièrement. L'humanité, c'est un journal... Tiens, mon drapeau corse se fait la malle. Il y a trop de vent. Je remets mon drapeau. Au cours de cet été, on vous prépare peut-être un arc corse de streamer. Peut-être que je vous ferai un petit stream en compagnie de streamer corse. Et donc, ouais, l'Humanité a consacré un article ce matin, que je n'avais pas mis de côté, parce que je n'avais pas compris que c'était imminent, mais en fait, cette libération. On va aller voir, du coup. Alors, je vous montre l'humain. Voilà. Alors, l'humain, pour le coup, c'est un journal qui est très militant sur ce coup. C'est vraiment un journal qui, alors régulièrement, pas toutes les semaines, mais quasiment, hein, enfin, moi je vois très régulièrement passer dans l'Humanité des articles sur demandant la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Effectivement, il y avait une double page aujourd'hui, alors qui est forcément une double page engagée. Je vais vous en lire quelques passages, qui revient notamment sur son histoire à lui. L'histoire de sa famille, elle débute à Kobaya, c'est un village du nord du Liban, composé à majorité de chrétiens maronites. Il est né le 2 avril 1951. À Kobaya, donc, le jeune Georges Ibrahim Abdallah participe dès ses 15 ans aux luttes solidaires avec les Palestiniens. En 1979, il s'engage dans la formation d'une organisation communiste et anti-impérialiste, les Fractions armées révolutionnaires libanaises. L'horreur des massacres dans les camps de Sabra et Shatila à Beyrouth-Ouest, perpétrés en septembre 82 par les milices phalangistes libanaises protégées et encouragées par l'armée d'occupation israélienne, ajoute à la révolte du jeune militant. Là, on revient vraiment dans l'histoire. Quoi. Envoyé en France, il est arrêté à Lyon le 24 octobre 84, condamné une première fois à 4 ans de prison pour port d'armes et faux papiers. Il est de nouveau jugé en février 87 et condamné à perpétuité pour la complicité dans les assassinats de deux diplomates en 82, l'un israélien, l'autre américain. Appartenant au service de renseignement de la CIA et du Mossad, nous précise l'Humanité. Les officiels français des services de sûreté et des magistrats antiterroristes témoignent déjà à l'époque d'un dossier d'accusation vide contre le militant libanais. Au centre pénitentiaire de Lannemezan, qui abrite de nombreux condamnés à des peines longues, le numéro d'écrou 2388A221 ne cesse de s'insurger. Georges Ibrahim Abdallah dénonce le massacre imposé par l'armée israélienne au peuple de Gaza. Ce génocide perpétré sous les yeux du monde contre des squelettes vivants et des bébés, c'est l'horreur et la honte de l'humanité. Déclaration le 28 juin. Seules les réactions et manifestations des jeunes sur tous les continents sauvegardent la dignité humaine, juge le militant. Chaque image de drapeau palestinien brandi, diffusée sur les réseaux, incite les opinions publiques des pays occidentaux, mais aussi arabes, à réagir et à agir. Malgré toutes ces décennies derrière les barreaux, l'optimisme demeure quant à l'issue du conflit israélo-palestinien, pétri d'une solide culture marxiste, bon, ce qui explique peut-être le soutien de l'Humanité aussi. Hein. L'Humanité, c'est un journal pro-palestinien depuis toujours, et c'est aussi un journal, bien sûr, qui est très proche de la pensée communiste. D'une analyse quotidienne des événements, il bénéficie aussi des multiples échanges avec toutes celles et tous ceux qui lui rendent visite. Il résiste à l'enfermement en s'ouvrant au monde. Alors, il n'est pas impossible que demain matin, la une de l'Humanité soit consacrée à Georges Ibrahim Abdallah. D'ailleurs, il y a aussi un article sur bien l'aspect pression de Washington dans cet article. On va lire, ça donne un peu de contexte. Voilà. Alors, ça donne un peu de contexte, mais... Attendez, je vais changer un petit peu la scène, parce que les articles sont mal... Attendez. Hop. Ils sont un peu rognés, là. C'est de ma faute. Attends, je vous fais ça bien. Voilà. Voilà. C'est comme je sais pas mon PC habituel. Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors, ça, on va recontextualiser tout en se rappelant que l'Humanité est très militant sur ce sujet parce que c'est un journal qui se bat depuis toujours pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Acharnement politico-judiciaire de Washington. L'Humanité qui fait campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah depuis sa condamnation en 1987, vous voyez, c'est vu, hein, a immédiatement dénoncé un verdict sous influence de la Maison Blanche. Les États-Unis sont intervenus à plusieurs reprises pour empêcher la libération du prisonnier politique, ce qui est avéré. Dès le verdict prononcé en 87 par la Cour d'assises spéciale de Paris, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité, l'Humanité dénonçait et titrait « Verdict sous influence ». Une condamnation qui stupéfia littéralement l'assistance, expliquait le journaliste de l'UMA Jean-Pierre Avry à l'époque. On ne saura pas sur quel motif les juges se sont prononcés, ni quelle preuve de culpabilité Abdallah leur aurait été fournie. Et de conclure ainsi, affaire bizarre par conséquent, tant dans son déroulement que dans sa conclusion dont la justice française ne sort pas grandie, disait l'UMA à l'époque. Dans son éditorial, Claude Cabanne, qui a été une des grandes signatures de l'Humanité, que j'ai beaucoup reçue à une époque dans N'ayons pas peur des mots sur iTélé, l'ancêtre de CNews, Claude Cabanne écrivait que ce procès a été de bout en bout piloté par et pour une puissance étrangère. Washington a gagné sous les applaudissements de Tel Aviv. Rien, aucun élément nouveau, absolument rien depuis la prononcée du verdict n'est venu modifier ses appréciations sévères mais toutes fondées. Le contexte international et les attentats en France ont pesé lourd sur le sort injuste infligé à Georges Abdallah, écrit l'UMA. Alors que la guerre civile battait son plein au Liban et qu'Israël envahissait le pays, deux diplomates, l'un américain, l'autre israélien, sont donc assassinés en France en 1982. La vague d'attentats de 85 à 86, dont celui du 17 septembre 86 rue de Rennes, monstrueux, tuant 7 personnes et en blessant 55 autres, est revendiqué par un mystérieux comité de solidarité avec les prisonniers arabes du Proche-Orient. Certains médias se déchaînent alors violemment sans aucun élément de preuve contre Georges Abdallah et sa famille, totalement étrangers à ses actes terroristes. Ce que montrera la justice plus tard d'ailleurs. Tout a été fait pour associer dans l'esprit des Français le nom d'Abdallah au terrorisme, dénonçait l'UMA en 87. Georges Abdallah, c'est la fin de l'article, est libérable en droit français depuis 1999. 11 demandes de remise en liberté ont été déposées. Toutes ont été refusées. Sous pression des États-Unis et d'Israël, les gouvernements français successifs se sont opposés à prendre un arrêté d'expulsion, comme cela est possible pour les détenus étrangers. Est-ce que la 12e demande sera la bonne ? Oui. Voilà. Bon, moi, je suis content d'avoir... C'est l'avantage de Twitch. Alors, merci d'abord à tous ceux qui m'ont signalé tout à l'heure la libération à venir de Georges Ibrahim Abdallah. Après 41 ans de prison, parce que je n'avais pas vu cette info. Et grâce à vous, eh bien, on a pu revenir un petit peu sur l'histoire. Voilà. Merci au Modo d'avoir géré les quelques excessifs du chat, qui sont une minorité, mais qui arrivent à mettre une ambiance un peu étrange parfois dans notre communauté. Je vous lis un petit peu sur le sujet. Est-ce que je pense que vous étiez nombreux, je pense, à ne pas connaître cette histoire. Du coup, il a fait des meurtres ou pas? Je comprends pas. Dacu-Ciseaux, d'après les informations que nous avons lues ce matin, il a toujours nié avoir participé à ces assassinats. Il a été condamné pour complicité. Et d'après le droit français, en fait, il était libérable depuis très, 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 très longtemps. Et ce que disent ses défenseurs et ses partisans, et le journal de l'Humanité, c'est qu'en fait, les États-Unis ont fait pression très longtemps, pas pour le condamner, mais au moins pour qu'il soit laissé en prison, quoi. Voilà. D'après les articles que je lis, il n'y a pas d'éléments matériels, de preuves formelles de cette complicité. C'est en tout cas cette complicité d'assassinat. C'est en tout cas ce que disent ces avocats, quoi. Je ne connaissais pas, me dit Étienne. Jamais entendu parler. Aussi une vieille histoire. Ouais. Pourquoi le libérer du coup? Parce qu'il était libérable depuis très très longtemps, en fait. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir d'autres articles demain. Là, on a lu un article dans un journal qui soutient Abdallah depuis très très longtemps. Demain, ce serait intéressant de voir le regard d'autres journaux, Libération, Figaro, Le Monde, sûrement aussi. Ce sera très intéressant. Et on y reviendra demain. Voilà, et ça nous permettra d'avoir un regard un peu plus distancié que ce matin. Je vois que Jotaked est très énervé ce matin. Les modos, je ne sais pas comment vous gérez, mais Jotaked, tu ne dois pas oublier que tu n'es pas seul. Vous êtes 4000 ce matin et je te trouve très très présent dans le chat. Et à un moment, alors ça, on est là pour échanger, pour discuter, mais tout de même, ne pas oublier que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas à prendre à partie. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, voilà. Je te suis depuis tout à l'heure. Je vois que les modérateurs t'appellent à l'apaisement, voilà. Et je vois que tu continues. Calmons-nous. Hein. Tu n'es pas tout seul. Je sais que tu es un habitué de la commu, mais je vois que ce matin tu es très chaud quand même. Voilà. Bon, bah reprenons le fil maintenant de notre revue de presse de ce matin. On en reparlera demain de Georges Ibrahim Abdallah. Merci beaucoup, Thérèse. Allez, on part sur Bayrou. On était avec la croix. Hein. C'est parti. Bon, très content d'avoir pu évoquer cette actualité. Donc, le pari risqué du plan Bayrou. On revient sur le plan Bayrou, c'est important. Parce que ça peut réellement changer notre quotidien si ce plan Bayrou il est transformé en acte. En projet de loi qui serait voté à la rentrée sur la santé, sur les retraites, sur les jours fériés, sur les impôts. Voilà. Des mesures annoncées pour redresser les finances publiques, c'est l'objectif. Hein. Considérées comme nécessaires par les uns. Un journal comme Le Figaro, par exemple, dit « Oui, bien sûr, c'est super, il faudrait aller même beaucoup plus loin », on le lira tout à l'heure. Et tandis que d'autres critiquent les injustices de ce plan. La question que se pose notamment la Croix, c'est est-ce que ces économies, cette austérité, ne menacent pas l'économie française ? Voilà. Alors, c'est pas que la Croix qui s'interroge, il y a plusieurs économistes qui se posent la question. Quoi. Le Premier ministre François Bayrou a donc annoncé mardi 15 juillet, pour ceux qui ont raté les infos, un plan d'économie de 44 milliards d'euros, je crois que c'est 33,8 précisément. Les effets d'un tel effort budgétaire font débat chez les économistes, ça me semble intéressant. Certains redoutent que les coupes budgétaires fragilisent la croissance et creusent les inégalités. Je répète cette phrase parce que c'est vraiment le focus de la Croix ce matin. Certains économistes redoutent que les coupes budgétaires fragilisent la croissance française. Et une croissance fragilisée, c'est moins de PIB, c'est aussi moins d'impôts qui rentrent. Voilà, et creusent les inégalités, l'aspect social. François Bayrou se laisse des marges de manœuvre pour élaborer des compromis avec les parlementaires d'ici à l'automne. Voilà. Les mesures annoncées par Bayrou pour redresser les finances publiques françaises sont pour l'essentiel saluées par le patronat. Bon, tu m'étonnes, parce que les entreprises ne sont quasiment pas concernées par ce plan. Il y a des propos un peu vagues sur les aides au public, aux entreprises. Il y a quand même beaucoup, on va quand même regarder. Bon, ok, c'est un peu flou. Et au niveau des niches fiscales, on va regarder aussi. Bon, on ne sait pas. Donc, c'est vrai que les entreprises sont plutôt épargnées par ce plan. Les mesures annoncées par François Bayrou pour redresser les finances publiques françaises sont pour l'essentiel saluées par le patronat, voilà, mais critiquées par les oppositions et les syndicats, ainsi que par des économistes qui redoutent des effets récessifs. Lisons. Zoomons déjà avec mes gros doigts là, voilà, et lisons. Et la croissance dans tout ça. C'est pas un truc qu'on a évoqué hier, ça. Les 44 milliards d'euros d'économies annoncées par François Bayrou le mardi 15 juillet peuvent-ils freiner une activité économique tricolore déjà atone ? Stop à la dette, c'est le titre du plan d'économie, vise en effet à redresser les finances publiques nationales en ramenant le déficit public à 4,6% du PIB et progressivement, c'est l'objectif, jusqu'à 2,8% en 2029. Dans le détail, le chef du gouvernement propose d'économiser près de 21 milliards d'euros pour ceux qui ont raté les annonces sur les dépenses de l'État, les opérateurs publics, les collectivités locales, sur les dépenses de santé, assurance maladie, notamment sur les ALD, affections de longue durée. Merci Sarah. Voilà. Par ailleurs, près de 16 milliards d'euros proviendraient de recettes et de taxes nouvelles via le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Hein, donc globalement, les Français vont payer un peu plus d'hier. Et de CSG. 2,3 milliards seraient obtenus grâce à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. À voir ça. Ça, c'est un truc qu'on nous sert régulièrement. 7 milliards doivent aussi provenir d'une année blanche, à savoir le gel de l'ensemble des pensions de retraite, des prestations sociales au niveau de l'année précédente, 2025. Bon, les gens qui sont encore sur, les polémiques liées à Abdallah tout à l'heure, là, je vous demande de vous arrêter. Baladure, pour ceux qui n'ont pas la ref. On est en train de parler de Bayrou. C'est vraiment, pardon, je le répète, c'est vraiment souffrir du syndrome du personnage principal que de rester bloqué sur un truc. Vous allez y passer 3 heures ou pas là ? On peut passer à Bayrou là ? Ou vous allez nous casser les bonbons pendant 3 heures de live là ? Vous voulez pas ? Vous n'êtes pas tout seul hein ? Ça continue là ? Mais c'est fou, ça. Et ça continue. C'est du foutage de gueule. Hein. C'est la cour de récré, exactement, Xap. Oh ! Bon. C'est incroyable, ça, à ce point de manquer de respect... à tous les autres viewers. Bon. Allez. Ça parle quand même de protection sociale. Ça parle quand même de retraite. Ça parle d'impôts. Ça parle de croissance. Ça parle de. On est quand même sur les choses un peu essentielles, bordel. C'est fou, ça. Bon. Je vous demande de vous arrêter. Allez, on y va. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel rapide de la croix sur les annonces de Bayrou. Comment l'activité qui devrait croître de 0,7% en 2025 et de 1,2% en 2026 pourrait encaisser de telles mesures ? On n'est pas sur une croissance de foufou. Hein. Une chose est sûre, la consommation des ménages sera affectée, déjà. Or, la consommation des ménages, c'est un moteur de la croissance. Dans la mesure où le gel des prestations sociales, notamment... Elle concerne des foyers plutôt modestes. On sait que les foyers modestes, ils épargnent pas, ou peu. Hein. Quand ils touchent de l'argent, notamment via les prestations sociales, il est dépensé cet argent. Il va directement dans la machine économique. Si tu baisses les prestations, tu les gèles, forcément, ça a des conséquences. Or, la tendance est déjà à la baisse. A rappelé Éric Lombard, qui est le ministre de l'économie, lors de sa présentation du plan, en rappelant que la consommation des ménages s'est déjà repliée un petit peu au premier trimestre 2025. Pour Xavier Timbaud, économiste à l'OFCE, le plan Bayrou va coûter 1 point de PIB au pays en 2026. Le problème à ses yeux, c'est que ce coup de frein va réduire les recettes fiscales. quand la croissance diminue, quand le PIB n'augmente pas autant que prévu, les recettes fiscales sont touchées. Voilà. Et donc, ça va entraver la réduction du déficit. Donc, la baisse du déficit anticipée par Bayrou, par les recettes de Bayrou, seront moins que prévu. C'est ce que pense un économiste, il peut se tromper. Hein ? Ce plan sera donc forcément déceptif, dit-il. Bon, l'OFCE, c'est un institut qui est plutôt classé à gauche. Chez Rexecode, institut de conjoncture proche du patronat, vous voyez l'effort de la Croix qui donne la parole aux économistes qui n'ont pas la même sensibilité. Le directeur des études, Olivier Redoulès, se veut moins pessimiste pour la croissance. Donc plutôt proche du patronat, il se veut moins pessimiste pour la croissance pour plusieurs raisons. Tout en admettant que les plus modestes seront potentiellement touchés, il nuance l'impact récessif des mesures annoncées. Elles seront relativement ambitieuses dans les montants affichés, mais nous ne sommes pas dans la rigueur au sens strict, car ce qui est proposé, c'est de dépenser un peu moins que prévu, voilà, et non de réduire les dépenses. Leur volume devrait tout de même croître en 2026. Bon, vous avez deux économistes qui n'ont pas tout à fait le même regard là-dessus, quoi. À ses yeux, en outre, l'impact négatif sur la croissance peut être très circonscrit si on fait les choses bien, c'est-à-dire en répartissant les économies de manière optimale et au plus proche du terrain, au sein des administrations. Et d'ajouter un dernier argument, les retraités de leur côté ne vont pas forcément moins consommer, même si le plan les met aussi à contribution. Bon, économiste, optimiste. Salut Toguet, ça fait plaisir parce que là, ça fait plaisir. Alors, certains redoutent quand même les effets sur la croissance et plusieurs experts redoutent de voir aussi les inégalités continue à se creuser, alors qu'une récente étude de l'INSEE a révélé que le taux de pauvreté s'est accru d'un point entre 2022 et 2023, on en a parlé déjà ici. Pierre Madec, économiste à l'OFCE, a pour sa part calculé dans une note qu'une année blanche entraînerait un recul de 1% du revenu des plus modestes contre une baisse de 0,3% des plus aisés, les fameux aisés. Ces chiffres viennent alimenter un deuxième reproche adressé à ce plan Bayrou, donc menace contre la croissance, et deux, répartition jugée inégale des efforts demandés aux uns et aux autres. Voilà. Les syndicats ont mis tout de suite cet argument en avant. Sophie Binet, la CGT, a estimé que ces mesures non seulement sont injustes, mais dangereuses pour le pays, jugeant que c'est encore les mêmes, les travailleuses, les travailleurs, qui passent à la caisse sans que les plus riches et les plus grandes entreprises soient mis à contribution. Du côté des économistes, là aussi, les avis divergent. Voilà, bon. Forcément, dans le chat, tu sais ce que ça va donner. Sur France Inter, Mathieu Plane, de l'OFCE toujours, estime que la question de l'équilibre de ce plan peut être posée, car on y relève globalement très peu de mesures fiscales et aucune taxation patrimoniale des plus riches. Voilà, le verge dans le chat que j'attendais. J'aime. Humour chat, humour Twitch. Voilà. Merci, je prononce sûrement très mal, G16U1, merci. Wildax TV, merci. Normaval, merci beaucoup. Merci pour les soutiens. Donc, très peu de mesures fiscales et aucune taxation patrimoniale des plus riches. Xavier Timbaud est moins affirmatif sur ce point. Voilà. Et de ce côté, Olivier Redoulès, Rexecode, plus proche des entreprises, donc, souligne que le gouvernement fait contribuer tous les ménages, y compris les plus hauts revenus. Ça, c'est les effets du gel du barème de l'impôt sur le revenu, de la suppression de certaines niches fiscales, sauf qu'elles ne sont pas précisées pour l'instant. Et de la fameuse contribution de solidarité évoquée par Bayrou, mais qui n'a pas été très précisée. Donc là, que les aisés, soient mis à contribution, peut-être. Alors oui, par le gel du barème de l'impôt sur le revenu, bien sûr, mais ce n'est pas gigantesque. Et quant aux autres choses, la fameuse contribution de solidarité et la chasse à certaines niches fiscales, on n'a pas beaucoup de détails et de précisions pour l'instant. Puis surtout, exit la taxe Zucman. Taxe Zucman, votez. Voté, on le rappelle, par l'Assemblée, qui, si je ne dis pas de bêtises, a été balayé par le Sénat, mais voté par l'Assemblée, par les députés. Et que le gouvernement n'a pas repris à son compte, quoi. On rappelle ce que c'est la taxe Zucman ou pas ? On rappelle ou pas, pour tout le monde ? Taxe Zucman. Yes, vite fait. Parce que ça, c'est un élément important du débat actuellement. Hein. On rappelle que c'est une taxe proposée par M. Zygmunt, si je ne dis pas de bêtises, qui a été votée par l'Assemblée, mais qui n'a pas été votée par le Parlement, pas votée par le Sénat. Donc la taxe Zygmunt propose de taxer à hauteur de 2% les 1800 foyers fiscaux, c'est très très peu de gens, hein. On est combien d'habitants en France ? Qui possèdent un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros en France. 100 millions d'euros, t'es bien. T'es bien. T'es bien. Voilà. Et donc c'est très peu de gens, et c'est une taxe, non pas des revenus, mais du patrimoine. C'est-à-dire que c'est 2% du patrimoine, en estimant que, eh bien, souvent, ces foyers fiscaux qui ont 100 millions d'euros de patrimoine, chacun, hein, c'est pas en tout, souvent payent assez peu d'impôts parce qu'ils savent optimiser, laisser le dividende dans l'entreprise, voilà, et souvent ont des taux d'imposition moyens qui sont plus faibles que la plupart des gens qui payent de l'impôt. Voilà. Et donc, quelqu'un me dit c'est énorme 2%, ben voilà. Et Rose 16, qui a peut-être 100 millions de capital, trouve que vraiment 2% c'est trop. Sauf qu'en fait, c'est une façon de faire participer ces foyers fiscaux qui payent en général beaucoup moins d'impôts que les autres parce qu'ils savent faire, ils savent optimiser, hein, de les faire participer quand même à l'effort national. Alors 100 millions de, 100, 2%, certains me disent c'est trop, voilà, ou parce qu'ils ont 100 millions d'euros sur leur compte en banque, ou parce qu'ils sont, solidaires des ultra riches. Et moi, je trouve ça très très beau. Moi, je trouve ça. Je trouve ça assez, assez touchant, en vrai. Voilà, je pense qu'effectivement, il faut aussi parfois savoir protéger les plus fragiles. Hein, et on ne pense pas assez aux gens qui n'ont que 100 millions d'euros de patrimoine. Et c'est vrai que moi, je trouve ça assez touchant dans le chat que certains les défendent, ces 1800 foyers, en vrai. Et pour être un peu plus sérieux, quand tu as un patrimoine à 100 millions d'euros, en général, tu sais à peu près bien placer ton argent et il est assez facile d'obtenir un rendement de 2% minimum tous les ans, hein, ou de 3, ou de 4, ou plus. Voilà. Et donc, voilà, sans travailler, hein, tu peux, en plaçant correctement cette fortune, dégager assez facilement un revenu minimum, enfin un pourcentage de 2, voire plus, je fais exprès. Donc, si tu gagnes 2, 3, 4, 5% de 100 millions d'euros juste en les plaçant et que tu es taxé à 2% chaque année, eh ben, ta fortune continue à augmenter. Hein. Donc, les gars, sans faire de la chasse absolue aux ultra riches, ça va. Ça va. Hein. Il en reste. Voilà. Donc, petit rappel de ce que c'est cette taxe Zygmunt qui a été votée par l'Assemblée mais qui n'est pas passée. Tu prends pas en compte l'inflation. Rajoutons l'inflation. Rajoutons actuellement l'inflation est à 1 ou 2%. Bon, bah, 2%, je te rajoute 2% d'inflation. Là, elle est à 1%, l'inflation à 10 Bayrou. Bon, ça fait 4. Bon, t'inquiète, normalement, ces gens savent placer leur fortune au-delà de 4%. Quoi. Voilà. Et puis, ces gens continuent à travailler, a priori. À faire tourner leur entreprise, c'est une entreprise. S'ils sont salariés, ils sont rarement salariés, hein, continuent aussi à travailler, à s'enrichir par ailleurs. Voilà. Donc, ils peuvent continuer à enrichir leur patrimoine. On ne leur interdit pas par ailleurs. Voilà. Donc, que certains trouvent ça choquant, c'est votre avis, mais vous l'avez compris, ça n'est pas le mien. Ça n'est pas le mien. Voilà. Donc, c'est ça la taxe Zygmunt. Et elle a été votée par l'Assemblée, mais elle n'est pas votée par le Parlement. Et elle n'a pas été reprise par François Bayrou. C'est ce que reproche, par exemple, une partie de la gauche. Quoi. Et toujours l'économiste de Rexecode, donc plutôt pro-entreprise, sur l'argument du fait que les entreprises ne participent pas à l'effort national. Même si elles étaient davantage impliquées que dans le plan Bayrou, à la fin, ce sont toujours les ménages qui paient parce que les entreprises répercutent ensuite les prix via une baisse des embauches ou des investissements, dit cet économiste. Donc il dit en gros, c'est pas la peine de taper les entreprises, de toute façon, c'est les Français qui finissent par payer. Ok. Les porte-parole du patronat français ont quand même, notons-le, salué les annonces de François Bayrou. Voilà. Le patron du MEDEF a salué le plan gouvernemental lucide, courageux, équilibré. Voilà. Donc, si, pour ceux qui se demandent si ce plan touche les entreprises, bon, il suffit de voir la réaction du MEDEF. A priori, on va dire pas trop. Le MEDEF qui continue, le gouvernement a choisi de toucher le moins possible aux forces vives et à celles qui créent de la richesse. Voilà. C'est ce que dit un conseiller de stratégie d'investissement chez Pictetheim. Voilà. Et enfin, conclusion de l'article extrêmement intéressant. Reste qu'au-delà des mesures annoncées mardi, ce ne sont que des annonces, personne ne sait comment le texte évoluera à l'issue du débat parlementaire avec une possible censure du gouvernement Bayrou à l'automne. Ah bah oui. Et si les effets de ce plan budgétaire divisent, une chose est sûre, les entreprises ont en horreur l'instabilité politique avec son lot d'incertitudes, la croissance pourrait en pâtir. Là, pour l'instant, ça n'est que des annonces. Qu'est-ce qui va se retrouver réellement dans le projet de loi ? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui va être voté ? Je ne le sais pas. Est-ce que le gouvernement va sauter ? Peut-être. Est-ce que, un truc qu'on va évoquer encore ce matin, est-ce que Bayrou va réussir à obtenir le soutien de la gauche, notamment du PS, pour faire passer son texte ? En lâchant du lest sur des choses qu'il a annoncées, et peut-être possiblement, pourquoi pas, une imposition des plus riches, je ne le sais pas. Parce qu'a priori, ce qui se dit, c'est que Bayrou compte sur le soutien des socialistes qu'il n'a pas aujourd'hui, à l'automne, pour faire passer son texte, parce qu'il sait déjà qu'il n'aura sans doute pas celui du Rassemblement National, du RN. Ça, c'est le Libé qui le dit notamment. Voilà. Donc voilà pour... les inquiétudes de la Croix sur notamment la croissance et les inégalités sociales. Est-ce qu'on va sur Libé là ? Oui, on va sur Libé ? Non, on va sur le Figaro. Qui fait un focus sur les jours fériés. Hop, Figaro. La suppression des jours fériés pointe d'escorte du budget. Cette mesure choc du plan de François Bayrou pour redresser les finances du pays, c'est aussi déjà une pure critique alors même que ses modalités de mise en œuvre restent floues. Ça met tout le monde d'accord. Les gens ne sont pas trop pour la suppression des jours fériés. Là. C'est une des annonces phares du plan Bayrou présenté mardi. La suppression de deux jours fériés, par exemple, a dit Bayrou, le 8 mai et le lundi de Pâques. C'est fou parce que depuis deux jours, j'ai jamais vu autant dans le chat de partisans de la mémoire, de la célébration, de la libération et de la victoire contre les nazis que depuis deux jours. C'est-à-dire, avant, personne ne m'en parlait jamais. Du 8 mai, et là depuis deux jours, tout le monde dit que vraiment le 8 mai c'est une journée super importante et qu'il ne faut pas oublier la libération, la victoire contre les nazis, et que c'est vraiment un jour. Depuis deux jours, le chat me parle que de ça en disant vraiment Samuel, c'est vraiment honteux quoi. Bon. Petite blague, mais bon, c'est assez amusant. On n'a jamais parlé autant de ça que depuis deux jours. Plus sérieusement. Les Français devront donc travailler sans être payés, puisqu'ils le sont déjà, a précisé la ministre du Travail. Bah oui, avant, quand tu étais en jour férié, tu étais payé quand même. Donc là, tu vas travailler, tu vas être payé pareil, mais tu vas pas être payé plus. Donc c'est travailler plus pour gagner pareil, comme avant. En contrepartie de la richesse créée, les entreprises auront à acquitter une contribution qui reste à définir. Cette mesure, qui ramènera à 9 le nombre de jours fériés en France, on passe de 11 à 9, doit permettre de dégager à peu près 4 milliards d'euros. C'est pour les salariés du privé, c'est pour les agents publics, c'est pour tout le monde. Colère des enseignants et de l'opposition des syndicats. Les enseignants, j'ai vu une réaction ce matin qui disait « Hé, vous auriez pu taper le 15 août hein !» J'ai vu ça ce matin, les syndicats d'enseignants qui disaient « Hé, le 15 août !» Voilà. Mais d'ailleurs, Bayrou n'a pas dit hein, quel jour ce serait. Il a dit ça pourrait être cela, par exemple. Elle suscite déjà la colère des enseignants et l'opposition des syndicats. La classe politique est divisée. Le RN ne veut pas entendre parler de la suppression de ces deux jours. La gauche également. Non sans soupçonner François Bayrou d'avoir allumé ce contre-feu pour éviter de parler des autres mesures budgétaires qui fâchent. Peut-être qu'en fait, Bayrou serait un gros malin et il aurait mis ça en avant pour qu'on ne s'intéresse pas au reste. Voilà. Alors, si vous voulez savoir ce que le Figaro pense de tout ça, tout est résumé dans l'édito de Vincent Trémollet de Villers, en mode, les gars, il fallait beaucoup plus loin, il fallait être beaucoup plus radical, il fallait taper dans l'assurance chômage, il fallait taper dans la santé, il faut faire les économies. Bon, je vous lis ça vite fait. Parce qu'il y a certains qui disent que ça va trop loin, et puis certains, comme le Figaro, qui disent que ça va pas assez loin du tout, hein, que c'est un truc de mollasson, tout ça. Faut-il l'écrire ? Vous allez tout comprendre. Il était possible de revenir sur les 35 heures. Voilà. Figaro dit, les gars, hein, souhaitable de reporter l'âge légal de départ à la retraite. Bah oui. Hein. Indispensable d'aligner le temps de travail des fonctionnaires sur le secteur privé. Urgent de faire sauter les contraintes qui mettent à l'amende les boulangers qui veulent ouvrir le 1er mai. Libérateur de permettre aux citoyens de travailler davantage pour être payés un peu plus. Moral de décourager la tentation de l'assistanat. Ouais, ouais. Par une reconnaissance sonnante et trébuchante de l'activité. Les Français ne travaillent pas assez, a dit François Bayrou. Il aurait pu ajouter, ils devraient vivre mieux de leur travail. Il suffit de regarder une fiche de paie pour mesurer ce que l'État ponctionne sur le revenu des citoyens. Sur ce bulletin, la suppression des deux jours fériés n'aura pas d'effet sur le salaire, n'allégera en rien le poids des taxes, des cotisations. Il s'agit donc de jours travaillés sans rémunération supplémentaire qui bénéficieront à la collectivité publique. Autrement dit, l'ancien jour férié devient un jour d'impôt. Le Figaro, il dit que ce n'est pas ça qu'il va les faire. La jurisprudence du lundi de Pentecôte nous l'indique, il n'est pas certain que les enseignants acceptent de travailler un jour de plus. Il n'est pas écrit que les entreprises imposent à leurs salariés dépourvus de garde d'enfants une présence obligatoire. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'à la fin, l'État prélèvera aux entreprises un pourcentage de la masse salariale. C'est surtout pour l'URSSAF que ces jours ne seront plus fériés. La situation financière du pays l'exige peut-être, mais alors pourquoi le Premier ministre a-t-il utilisé toutes les ressources de son éloquence pour dénoncer l'usage excessif et contre-productif des prélèvements obligatoires ? Une hypothèse, cette proposition a été lancée comme une boule pour que le flipper clignote et qu'il fasse oublier le reste. Dans ce cas, l'opération est réussie, mais elle présente un inconvénient, celui d'entretenir le sentiment prégnant de dépossession culturelle. De supprimer des jours fériés. Supprimer le CESE, Conseil économique, social et environnemental. Araser le maquis d'associations sous perfusion d'argent public et dont l'utilité reste à ce jour introuvable aurait déchaîné tout autant la CGT, mais en retour, le Premier ministre aurait emporté l'adhésion de la France qui travaille. Bon, voilà. Des économies, oui, mais le Figaro dit que ce n'est pas celle-ci qu'il aurait fallu faire. Et c'est un peu ce que dit Libération aussi. En fait, il y a pas mal de journaux ce matin qui m'appellent ce matin de bon matin. Les messages importants laissent des messages. Là, zéro message. C'est donc, c'était pas. Ah, il y a un message à 9h. Je coupe le micro. Voilà. Ça se trouve, c'est du travail. Vous connaissez Caltea ? Une entreprise s'appelle Caltea ? C'est quoi ça ? Caltea, c'est écrit comment ça ? Non ? Moi non plus. Comment cette personne a eu ma message ? C'est les pompes à chaleur ? C'est quoi ce message ? Comment ces gens réussissent à trouver mon numéro ? Je vous fais écouter, les gars. Allez, je vous fais écouter. Je suis en mode anime maintenant, je dis tout, moi. J'en ai marre. Comment ces gens ont mon téléphone ?
Étienne, bonjour. Monsieur Torrado, l'appareil. Caltea. Je suis le fondateur de l'enseigne Caltea au niveau national. Je voulais échanger avec vous. Rapidement, je n'ai rien à vous vendre, monsieur, mais je voulais échanger avec vous. 2 minutes, si vous pouviez me rappeler. Merci.
Hein ? Le mec, il me parle d'une entreprise que je connais pas. Il veut me parler d'un truc, mais il me dit pas quoi. Il a mon téléphone. C'est ouf, ça. Il veut me proposer une sponsor clim ? C'est dingue, ça. Mais envoie-moi un mail, que je m'appelle en vacances sur mon téléphone. C'est fou, ça. C'est un scam, je reçois toujours des trucs comme ça. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Hein ? Ouais. Rappel ? Non, on est poussé à foutre. On est en train de sauver la France, nous. Hein ? Bon, Libération est aussi sur cette analyse, vous allez voir. Ça sent le P, ouais. Ça sent le P, hein. Enfin, ce ton un peu là. Alors, moi, je déteste. Alors, sachez qu'il y a un truc que je déteste. C'est les gens qui me disent rappelez-moi, mais sans me dire pour parler de quoi. voyez ce que je veux dire? Ah, moi, c'est le truc qui me rend fou. Les gens qui me disent « Tu peux me rappeler, s'il te plaît ?» Ben non. Oh, mais dans le boulot, il y a des gens qui me font ça. Il y a des gens dans le boulot qui font ça. Des gens avec qui je... Dans les boîtes classiques, quoi. T'as toujours un mec qui me dit « Ouais, c'est machin. Tu peux me rappeler, s'il te plaît ?» Ben non. Mais même des gens que je connais. Hein. Mais t'es qui? Je suis pas ton chien. Tu veux parler de quoi, d'abord? Voilà. Et donc, et régulièrement, je le dis, ça. Comme je suis vieux maintenant, que je suis un peu, j'ai un caractère de cochon maintenant, et que je suis un peu free, quoi. Les gens, je leur dis, mais quand tu me dis rappelle-moi, je te rappelle pas, moi. Quand tu m'appelles, tu me dis bonjour, c'est machin. J'aimerais bien te parler de ça. Est-ce que tu peux me rappeler? Mais je ne rappelle jamais quelqu'un qui me dit pas de quoi il veut me parler. Mais ça, on n'est pas des domestiques quand même. Hein? Et parfois, quand c'est les gens avec qui je travaille au quotidien, parce que ça arrive, des gens qui sont comme ça, je leur dis, sache que je ne te rappellerai jamais quand tu me laisses un message comme ça, quoi. Si tu veux qu'on parle d'un truc, bah dis-moi de quoi tu veux parler. Hein? C'est tellement mal poli. Vous savez quoi, les gars? Faites pareil, si je puis me permettre. Voilà. Et on va pas rappeler les gens qui sont mal polis comme ça. Alors, l'édito de Libé, que pense Libé de tout ça, quoi? Juste ou pas? Point d'interrogation. C'est la question essentielle à se poser après la présentation mardi par François Bayrou des mesures devant permettre de trouver 43,8 milliards d'économies pour engager le pays dans la voie de la réduction de la dette. Le Premier ministre, lors de son intervention, a insisté sur le fait que les efforts demandés aux Français, et ils sont plus que conséquents, ne seraient acceptés que s'ils étaient justement répartis. En clair, que le message sur l'impérieuse nécessité de se serrer la ceinture ne serait compris qu'à la condition d'être assorti d'un sentiment de justice sociale. Alors moi, c'est ce que je dis depuis toujours. Tu peux demander des efforts aux Français à condition que... Ah, sauf si c'est maman, bien sûr. Ah non, les amis, si c'est votre maman ou votre papa ou votre frère ou votre sœur ou votre amoureux, votre amoureuse qui vous dit « Rappelle-moi », ah ben non, tu rappelles. Ah ben non. Non, non, mais on parlait du boulot, là. La famille. Merci, Catherine. Merci, Ednoé Manat. Merci beaucoup. Ah ben non. Bien sûr. D'ailleurs, on appelle la maman sans qu'elle appelle, dit Sugar, bien sûr. Ah, mère, trop tard, j'ai bloqué ma mère. Mais non, débloque. Si c'est ma belle-mère, je rappelle. La belle-mère, tu rappelles. Ah bah non. Si c'est un modo, la modo, tu rappelles. Ouais. Ah bah non. La famille, oui. Non, tu dis pas ta maman, et tu es qui pour me dire ça? Non. Non. Non, 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 non. Si c'est Bayrou, non. Bayrou, tu rappelles pas. Sauf s'il te dit de quoi il veut te parler. Si c'est mon ex, non, tu rappelles pas, Gibou Gibou. Non, non, tu rappelles pas. C'est un piège. Oh, mais c'est la nif de ma mère, d'ailleurs. Merci de m'y faire penser. Voilà. On vient faire une... Voilà. Il y a une femme incroyable, d'une beauté lumineuse, aveuglante. J'ai les yeux qui piquent, qui vient de passer devant moi, là. Oh, j'ai les yeux qui piquent. Et c'est mon épouse. Incroyable. C'est fou. La vie est bien faite. Pardon. c'est presque trop, là. Il faut que je me reconcentre. Merci. Merci, 14. Je suis con, hein. Donc, moi, c'est un truc que je dis depuis toujours. Tu peux demander des efforts aux Français, mais il faut que tout le monde fasse un effort, quoi. Est-ce le cas? Non, dit Libération. Il est en effet frappant de constater que si le Premier ministre a souvent été précis dans les coups de rabot qui toucheront l'ensemble des Français et qui pénaliseront donc proportionnellement davantage les plus modestes, le flou demeure quant aux mesures censées mettre à contribution les catégories les plus aisées, voire les très riches. Les aisés, j'en ai parlé tout à l'heure. La contribution de solidarité sur les plus hauts revenus évoquée par Bayrou, la lutte contre les niches fiscales, l'imprécision domine. C'est ce que je dis. De la même manière, en réclamant de la main gauche une énième réouverture des discussions sur l'assurance chômage, tiens donc, mais en laissant sa main droite dans sa poche sur la question de l'effort demandé aux entreprises, voilà, et notamment aux très grands groupes, il a donné l'impression d'un deux poids, deux mesures. Bah oui, un petit peu quand même. Bien sûr, il y a chez François Bayrou dans cet affichage une posture tactique. Alors là, il y a un truc qui m'intéresse. Il se laisse une marge de manœuvre pour discuter à la rentrée avec la gauche, pour rééquilibrer ses propositions dans le sens d'une plus grande justice sociale. Ah bon ? Le Premier ministre qui aurait pu décider d'abattre d'entrée certaines cartes pour présenter un plan plus équilibré, il se serait laissé des cartouches, il se serait laissé des... Vous l'avez ? Des... Ça se mange ? Indice ? Ça commence par un B ? Des biscuits ! Exactement, bravo. Des biscuits. On aime jouer ici. Il aurait pu donner le sentiment d'être sincèrement préoccupé par une juste répartition des efforts. Il aurait pu mettre des actes derrière ses mots, sauf à penser que derrière sa posture tactique se cache une stratégie et donc de vrais choix politiques. Donc, Libé nous raconte qu'en fait, ce plan n'est pas assez social, ne tape pas assez, ne demande pas assez d'efforts aux plus riches pour garder des biscuits pour la rentrée, pour discuter avec les socialistes. Et Libé dit « c'est dommage ». Il aurait pu d'entrée afficher un plan plus équilibré. Voilà. Moins stratégique et plus de conviction. Hein ? Pas mal ça. Hein ? Et, mais imagine le petit retour de la taxe Zucman à la rentrée. Voilà. Donc, à voir. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que pour demander un effort aux Français, il faut que tous les Français fassent des efforts. Ouais. Yosette dit la taxe Zucman est un suicide, taxer les ultra riches, oui, mais pas sur le patrimoine de cette façon. C'est un débat en vrai. On l'aura ce débat. Salut Grégorio. Ah bah t'as raté deux, trois petits trucs. Francky Vincent propose la taxe Zucman. Merci Looping pour cette participation au débat. Vas-y.
C'est bon. Franck, c'est bon, bon, bon. C'est bon. C'est bon, bon.
Tu l'as vu, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a encore ? Est-ce qu'on a encore du Bayrou ce matin ou est-ce qu'on peut passer à autre chose là ? Ah, un petit édit. J'ai le temps ou pas ? Parce que j'ai un rendez-vous, faut que j'emmène mon épouse tout à l'heure. Midi. Ça va. Dans les échos, j'ai un truc sur les échos. Un édito sur les tartuffes du budget. Encore un autre regard. C'est intéressant. Non, c'est les échos, Samuel. Oh là là, Paul Figaro. Oh, le vieillissez pas. Alors, il est où ? Il est en une, je pense. Ou en page 2. Figaro, c'est page 2, je crois. Un rendez-vous amoureux ? Non, on doit aller faire un truc. De toute façon, avec mon épouse, on est en rendez-vous amoureux perpétuel. Hein. Les tartuffes du budget. Qu'est-ce qu'il veut dire, monsieur Dominique Seux ? François Bayrou a eu le grand mérite, une des échos, en présentant mardi son plan de redressement, de ne pas délivrer de l'eau tiède. Il a été à la hauteur d'une situation dont, hélas, l'opinion ne prend pas conscience du caractère inquiétant. Les gars, vous n'avez pas conscience, là. Hein ? Vous n'avez pas conscience, hein ? Disent des échos. En 20 ans seulement, la dette publique tricolore est passée de 1100 milliards à 3345 milliards. Attends, on était à 3330 avant-hier. Ah, on a pris 15 milliards dans les échos. Et nos taux d'intérêt à 10 ans sont désormais plus élevés que ceux des Grecs. Les réactions... Tartuffe, ça prend deux F ? Vous pensez qu'ils ont fait une faute d'orthographe ? C'est possible. Tartuffe. Tarte aux fraises, non. Tartuffe. Ouh, ils ont fait une faute. Attends, je le tape avec un seul pour voir si je trouve une occurrence. Oh, la honte. Ah non, les deux sont possibles. Les deux s'écrivent. Tartuffe, Tartuffe. Larousse. Tartuffe ou Tartuffe. Orthographe. Au sens de faux dévot ou d'hypocrite, les deux graphies Tartuffe et Tartuffe, un F, deux F, sont admises. De même pour le dérivé Tartufferie ou Tartufferie, un F ou deux F. En revanche, le nom du personnage de Molière s'écrit avec deux F. D'accord, ok. Mais, si je puis me permettre, comme le Figaro, non, les Échos, ont mis un grand T à Tartuffe, donc nom propre personnage, il eût fallu mettre deux F. Ou alors enlever le grand T. Bim ! Bim ! Voilà ! Vous avez raison. Donc c'est Tartuffe avec un seul F au pluriel, d'ailleurs. Voilà, ouais, c'est exactement. Il aurait fallu écrire petit T, Tartuffe, deux F avec un S, je dirais. Ou grand T, dans ce cas-là, mais avec deux F. Bon, on s'en fout, c'est un détail, mais ça nous fait marrer. Donc, je continue avec Dominique Seux, avec un X. Les réactions pavloviennes émanant d'un certain nombre de responsables politiques sont désespérantes. On ose écrire lamentable. Attention, attention, ça tire à balles réelles. Tout, 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 tout. Bruitage complètement raté. Une seconde à peine après la fin de la conférence de presse du Premier ministre, le RN et LFI avaient déjà annoncé leur envie irrépressible de censurer. Ces deux partis extrémistes parient qu'une bonne crise institutionnelle les servira d'une façon ou d'une autre. LR et même les socialistes sont plus constructifs et on espère qu'un trou de souris existe, même si le scénario d'une chute du gouvernement reste hautement possible. Exactement, sans Kukai, c'est la bataille. Mais ce qui saute aux yeux, pour l'instant, c'est qu'on trouve peu de monde pour réaliser que les dépenses publiques auront grimpé de 374 milliards depuis seulement 2019, et dont 77 milliards pour la Sécu. François Bayrou est contraint de corriger Emmanuel Macron. Les améliorations de ce qui a été mis sur la table sont possibles. Si travailler plus est un bon message, la suppression sèche de deux jours fériés est-elle la plus habile ? S'ils réfléchissent honnêtement, nos politiques devraient néanmoins savoir que le remède prétendument miracle, faire payer les immigrés ou les riches, c'est selon, n'en sont pas. Ou se dire cyniquement que ce gouvernement peut faire le sale boulot avant 2027. En très peu de mots, Dominique Seux dit deux choses. Il dit « taper sur les riches pour taper sur les riches, c'est une fausse solution ». Voilà. En gros, ça ne suffira pas. Ce n'est pas le remède miracle que certains disent. Ne vous fâchez pas, les gars. Hein. C'est Dominique Seux. Et de la même manière, dire que les immigrés, suivez mon regard, c'est par là. Très, 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 très par là. Plus loin que... voilà. C'est aussi une fausse solution. Voilà. Il dit, le seul truc, c'est la rigueur, c'est les économies, c'est moins, c'est dépenser moins, etc. Quoi. Voilà. Allez dans les échos, mesdames et messieurs. Tapez pas, tapez pas. Pas le visage, pas le visage. Pas taper, pas taper. T'es à l'envers, pour nous, c'est pas du bon côté. Oui, ça, c'est mon extrême droite à moi. Ça, ça va partir en clip, ça. Samuel Etienne qui tend le bras et qui dit ça, c'est mon extrême droite à moi. Parce que, voilà, et vous, c'est inversé. Vous, c'est de l'autre côté. Voilà. De toute façon, ça va partir sur Twitter ou sur TikTok, j'ai l'habitude. Samuel Etienne, sur Twitch. Voilà, le dangereux fasciste. Ça, c'est mon extrême droite à moi, ça. Ah, on est habitué. Le fameux dangereux fasciste pro-RN, prompt à donner la parole à l'extrême droite, en même temps soutien de LFI et, tant qu'à faire, support bien ancien de la Macronie. Voilà, on est fous, ici on est fous, on est tout ça. Enfin, c'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Bon, et si on parlait un petit peu maintenant de Christophe Glaise. Et mangeur de bébés phoques aussi. Oui, ça aussi. Et si on parlait de Christophe Glaise ? Voilà. Voilà. Bon, quelqu'un dans le chat a réussi à écrire « Ouais, c'est bien fait pour sa gueule, il a cherché la merde. » Je contextualise, Christophe Glaise, c'est un journaliste, c'est un gars, depuis tout petit, il est passionné de football, de sport, et d'Afrique. Il est allé faire un papier sur le football algérien, il a pris 7 ans de prison. Voilà. Quelqu'un dans le chat a dit « Ouais, bien fait pour sa gueule !» Le Monde, article ce matin, mobilisation, voilà, 80 personnalités, j'ai la chance d'en faire partie, ont signé un appel à libérer ce journaliste français, âgé de 36 ans, Christophe Glaise, collaborateur de SoFoot, de Society, voilà, condamné à 7 ans de prison ferme, hein, par le tribunal de Tizi Ouzou. Peine infondée, on va se pencher sur ce que reproche la justice. Oh, attendez, on va faire une petite pause enfant. Ça va mon cœur ? Ça va mon bébé ? Je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu viens faire ? Tu veux prendre le micro ? Non, tu viens juste me dire un truc. C'est des Smarties ? C'est pour moi ? Oh, garde-les pour toi. Oui, attends.
En fait,
oui.
Mes mathématiques, j'avais des mathématiques dans mon cahier de Smarties.
Oui.
J'ai réussi, alors je peux manger la moitié de la boîte.
Alors, je vous traduis parce que Solal n'a pas de casque. Les gens, ils n'ont pas entendu. Tiens, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé ? C'est mieux quand ça sort de la bouche des enfants. Solal, 5 ans. Solal, pourquoi tu as une boîte de Smarties ?
Parce que...
Que je secoue.
En mathématiques, je devais mettre des autocollants. Il y avait... En fait, par exemple, il y avait aussi quelque chose plus quelque chose.
Ah oui ? T'as fait des mathématiques ce matin ? D'accord.
Et non, là tout de suite.
Là tout de suite à l'instant, d'accord.
Et en fait.
Des additions, quoi.
Et en fait, je devais mettre des autocollants.
Ouais.
Et après, on faisait égal.
Ah oui, t'as vu.
Il y a aussi un truc où c'était un 15, c'était le maximum.
Okay, d'accord. Et t'as réussi ?
15, oui.
Et donc, c'est pour ça que t'as eu un tube de Smarties. Et ben voilà. Ben, la vie, c'est comme ça, tu vois. Si tu fais bien tes mathématiques. Bah, tu auras des petites surprises comme ça. Par exemple, des Smarties. Tu fais des mathématiques, toi, comme ça, le matin, en vacances ?
Oui.
À 5 ans ?
Oui, ah bah, c'était bravo. Mon cahier.
C'était ton cahier ?
De Smarties.
De Smarties, bah, je suis fier de toi, mon cœur. Je suis trop fier de toi. Ça va ?
Oui.
Est-ce que tu nous fais une petite chronique ce matin ?
Oui, mais je n'ai pas préparé.
Tu n'es pas obligé. Tu peux la faire demain aussi. Il n'y a pas de souci, mon cœur. Tiens, prends tes Smarties. J'ai droit à un bisou ? Je t'aime. Prends soin de toi. A tout de suite. Bon, petite pause Smarties. Ah, futur ingénieur celui-là. C'est chou. Ah oui. Alors, lui, c'est vraiment un cœur. Tu veux bien, tu fermes la porte doucement ? Merci encore. Je t'aime. Ouais, attention à tes doigts. Voilà. Vas-y, monte tes muscles. Bravo. Qu'est-ce qu'il est gentil. Bon, ça fait des maths. Ah oui, c'est vrai, il veut être cuisinier, il veut ouvrir un Pizza Hut. J'avais oublié. Hier, on lui a demandé ce qu'il voulait faire comme plus tard comme métier. Je sais, c'est ce qu'il dit à sa maman et à moi. Il veut devenir cuisinier. Et précisément, il veut ouvrir un Pizza Hut. Voilà. Peut-être qu'il changera d'avis, mais... Bah, pour vendre des Pizza Hut, il faut être bon en maths, hein. Quand on te demande 8 pizzas, faut pas en envoyer 6. Hein. Et Malo, son aîné, il veut créer des jeux vidéo. Ouais. On en était où ? Ah oui ! Pardon, excusez-moi, je redeviens sérieux. Libération de Christophe Glaise, donc, voilà. Lisons cet article du Monde qui par ailleurs, relate la pétition, l'appel lancé et signé par 80 personnalités, dont j'ai la chance d'être aussi par ailleurs. Avec la pétition dépassant les 17 000 signatures et la mobilisation d'une quarantaine de sociétés de journalistes, près d'une centaine de personnalités publiques appellent à la libération du journaliste sportif français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison ferme le 29 juin par le tribunal de Tizi Ouzou en Algérie après 13 mois de contrôle judiciaire. Âgé de 36 ans, le collaborateur régulier de SoFoot et Society, c'est un passionné de foot, hein, le gars, est détenu dans une cellule de 10 mètres carrés qu'il partage avec un co-détenu depuis maintenant 3 semaines. Donc il est en prison. Mardi 15 juillet, plus de 80 personnalités du monde du cinéma, des médias, du football, encore de la littérature, ont demandé la libération du journaliste dans une tribune publiée par Reporters sans frontières. Les acteurs et actrices Gilles Lelouch, Catherine Deneuve, François Civil, Vincent Dedienne, Denis Podalydès notamment, le réalisateur Michel Hazanavicius, les romanciers Nicolas Mathieu, Mohamed Bougarsar, les chanteurs Benjamin Biolay, Bertrand Belin, Médine figurent parmi les soutiens. Des visages de la télévision, Jean-Pierre Foucault, Marie Portolano, Yann Barthès, Samuel Etienne, le BG, écrit Le Monde, c'est vraiment très sympathique, Hervé Matou, plusieurs confrères et consoeurs journalistes sportifs comme Hervé Matou, Nathalie Yanetta, Laurie Delostal se sont également joints à la tribune. Nombre de footballeurs et entraîneurs comme Vahid Ali Lodzik, Hervé Renard, Rai, plusieurs clubs et institutions, l'OGC Nice, le Paris FC, le RC Lens, la Fédération Française de Football, ça je ne savais pas, la Ligue de Football Professionnel ont fait part de leur solidarité avec le natif d'Agen, devenu un passionné de football. C'est un fan invétéré du PSG et du continent africain. Alors, la question que vous posez tous, bien sûr, c'est qu'a-t-il reproché à ce journaliste français d'une trentaine d'années pour avoir été condamné à 7 ans de prison ? 7 ans de prison ferme ? Oh ! Hein ? Il a dû, je ne sais pas, trafic de drogue, il a tué des gens. 7 ans de prison ferme. 7 ans de ta vie dans 10 mètres carrés. Ça doit être gravissime. La justice algérienne a condamné le reporter français pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Lui reprochant, alors qu'est-ce qui est reproché à ce journaliste ? Lui reprochant des entretiens entre 2015 et 2021 avec un dirigeant de club de football de Tizi Ouzou. Ce club s'appelle la Jeunesse Sportive de Kabylie. Il a été condamné à 7 ans de prison pour avoir interviewé un dirigeant de club de football. Point. Alors évidemment, je vais vous expliquer le contexte un petit peu après, parce que c'est un club de football qui a des affiliations avec des gens qui veulent l'indépendance de la Kabylie. Voilà. Sauf que le gars, il est venu faire un article sur un club de foot, sauf que il n'a pas interrogé la bonne personne. En tout cas, pas la bonne personne en Algérie. Précisons donc. Voilà. Il avait été arrêté fin mai 2024 à Tizi Ouzou, alors qu'il était en reportage pour raconter l'histoire du club. Hein puis il a passé 13 mois sous contrôle judiciaire avant d'être jugé. Sa condamnation est infondée, selon ses proches, hein, qui se mobilisent avec le soutien de RSF et le groupe Sopress. C'est la plus lourde peine infligée à un journaliste français pour avoir exercé son métier depuis plus d'une décennie, a pointé le directeur général de RSF. Dans un communiqué, il y a un appel qui a été lancé à libérer Christophe Glaize et demander aux autorités françaises de mobiliser tous les leviers diplomatiques pour parvenir à une solution. Le sort de Christophe Glaize a été évoqué aussi lors du Festival international de journalisme de couture sur Garonne. Alors ce qui manque ici, c'est pourquoi il y a 7 ans de prison pour une interview sur le foot. Moi, je l'ai lu ailleurs, ça. Peut-être qu'on l'a dans Le Parisien ce matin, on va aller voir. Parce qu'en fait, ce que l'article ne dit pas, là, c'est dommage, on va peut-être trouver dans Le Parisien, c'est que en fait, le dirigeant interrogé, en plus d'un dirigeant de club sportif, et c'est le seul truc qui intéressait ce journaliste, par ailleurs, il avait des liens, si j'ai bien compris, avec des gens qui souhaitaient l'indépendance de la Kabylie. J'espère que l'article le rappelle. Sinon, on va aller chercher cette info. Parce qu'il faut... Sinon, vous allez me dire, c'est pas possible, il n'a pas pris 7 ans de prison pour une interview d'un dirigeant de club sportif. Hein on va... Et ça, on va essayer de le comprendre. Parce que là, il manque quelque chose dans l'article. Donc là, l'article dans Le Parisien aujourd'hui, est-ce que ça précise ? La justice algérienne lui reproche des contacts entre 2015 et 2017 dans le cadre de ses fonctions de journaliste avec un club, avec un responsable du club de football de la Jeunesse Sportive de Kabylie. Ce dirigeant était également responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a été classé en 2021 organisation terroriste par les autorités algériennes. Voilà. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est que les contacts avec le monsieur, c'est incroyable, les contacts avec ce monsieur ont été pris entre 2015 et 2017. Et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dont ce dirigeant de club de football était également responsable, a été classé organisation terroriste en 2021. C'est un truc énorme. Le gars a été condamné à 7 ans de prison pour avoir interviewé un dirigeant de club de foot pour parler de football, sauf que le mec était aussi dirigeant d'un mouvement indépendantiste kabyle. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui intéressait le journaliste. Et classé mouvement terroriste, genre 4 ans après les faits, quoi. Magnifique. Comme le dit Moulbit à l'instant. Magnifique. Voilà. Il n'y a rien qui va. Pardon de dire les termes, mais il n'y a rien qui va. Bon, là, ses proches témoignent, ils sont super inquiets, vous imaginez, quoi. Et lui, c'est un passionné de foot, c'est ce que disent tous ses proches, c'est juste un passionné de foot. L'article, il est page 15 dans Le Parisien, mon ami. Voilà. Lorsque Christophe a été arrêté en 2024, la police a trouvé deux interviews de ce dirigeant dans son ordinateur. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est incroyable. Bien qu'on les contacts existent avec ce monsieur, il n'avait pour sujet que le football. Christophe n'a jamais fait l'apologie du terrorisme, ni même déclaré son soutien à l'indépendance de la Kabylie, qui est un sujet extrêmement sensible en Algérie. Voilà. Il n'a jamais écrit d'article, il n'a jamais pris la parole sur le sujet. Rappelle Franck Hanez, qui est le fondateur de SoFoot. Voilà. Un homme sympathique et avenant, une bonne personne, facile à vivre et drôle. Même, alors c'est incroyable, même après son emprisonnement, le journaliste continue de respecter la justice algérienne. Il n'en a jamais voulu aux Algériens. Ni même l'agent algérien chargé de le suivre pendant son contrôle judiciaire, avec qui il a développé un esprit de camaraderie. Le mec est tellement sympa qu'il a fait copain-copain avec l'agent algérien qui était chargé de le suivre pendant toute la détention préventive. Maintenant, il est au Niouf. Voilà. Il garde le moral qu'il a ses proches, blablabla, blablabla. Selon lui, c'est le contexte géopolitique tendu entre la France et l'Algérie qui a mené à cette situation, rappelant celle de l'écrivain Boualem Sansal, dont on a parlé aussi ici. Merci Matador pour ce raid, c'est adorable. Vous étiez sur quoi, Matador ? Sur quel contenu ? Mais derrière les manœuvres diplomatiques, un journaliste se retrouve enfermé. Il se retrouve mêlé à une décision politique alors qu'il n'y est pour rien. Voilà. Pour tous ceux qui pouvaient supposer, imaginer, soupçonner qu'il y avait un vrai fondement à la condamnation à 7 ans de prison ferme par la justice algérienne de Christophe Gless, le journaliste français, je pense que vous avez tous les éléments pour comprendre qu'il n'y a rien. Voilà. Et que tout ça, c'est à cause, sans doute, des tensions entre la France et l'Algérie. Et qu'un homme innocent, qui a juste fait son métier, qui est juste passionné de foot, est au Niouf. On a quand même trouvé quelqu'un tout à l'heure dans le chat au début du sommaire pour réussir à nous dire que ouais, c'était normal, qu'il avait, après tout, il avait cherché la merde, et tant pis pour sa gueule, ce qui m'a mis très en colère. Il y aura un petit Death Note d'ailleurs après ce live. Sur le jeu Days Gone, c'était bien ? C'est fou, hein ? Donc voilà pourquoi des personnalités ont signé cet appel, cette tribune, pour faire pression un petit peu sur l'Algérie et aussi sur la France pour que, au niveau de la diplomatie, ça se bouge un petit peu le huc. Je vous lis. On est à combien de noms sur le Death Note ? Pas beaucoup, les gars. Et vous êtes 4000. Sur le stream, aujourd'hui, il y en a 3 personnes. C'est ridicule. Les comportements problématiques dans le chat sont ultra minoritaires. Mais comme ils sont très bruyants, très visibles, très répétitifs, très spammeurs, là, on parle de 3 personnes sur 4000. 4000 à un instant T. Mais en fait, sur un stream comme celui-ci, si on prend le nombre de viewers uniques qui vont passer sur 3 heures de stream, vous êtes à peu près 50 000 à peu près. 50 000 personnes différentes. Sur 50 000 personnes qui vont passer sur ce stream ce matin, il y a 3 personnes qui ont été problématiques. 3 personnes. 3 sur 50 000. Donc, certains qui disent « Ah oui, t'es vraiment... » Quelqu'un a écrit tout à l'heure « Oui, je ne sais pas si c'est lié à tes problèmes personnels, professionnels en ce moment, mais t'es devenu un peu irritable. Vraiment, c'est pas bien, je ne viendrai plus. » 3 personnes sur 50 000. 3 personnes sur 50 000. 3 personnes qui, à un moment, viennent foutre la merde, en fait. Et voilà, quelqu'un a fait le calcul, c'est 0,075%. Pardon de vouloir à un moment, de temps en temps, faire le ménage, quoi. C'est pour le bien commun. Voilà. Donc, et en fait, c'est 3 personnes sur 50 000. Le problème, c'est qu'elles sont très bruyantes. Voilà. Et ça vient polluer. Et moi, je dis non. Bah, oui, c'est le fameux « tu es susceptible » de tout à l'heure, là. Oh là là. Du coup, je l'ai rajouté aussi, d'ailleurs. C'est non. Oui, les avis divergent, bien sûr. Oui, you shall not pass, exactement. Je vois mon amoureuse qui vient me... Oh, midi. Il est midi, il faut que j'arrête. Attendez, je refais la phrase. Je vois une femme incroyablement belle et élégante qui arrive. Je ne sais pas qui c'est. Pardon, je n'avais pas vu, c'est mon épouse. Qui veut me dire quelque chose? Il va falloir qu'on y aille. On part dans combien de temps? 15 minutes? 5 minutes? 10 minutes max? Ben, un dernier article et c'est parti. Voilà. On part à 15 dans la voiture? À 10 dans la voiture? Ok. À 10 dans la voiture. Ok, chef. C'est à 20? Ah oui, ah bah oui. Ah bah ça, ah oui, bon, j'arrête alors. Oui, oui. Ouais. Je vais pas speedrun l'article parce que l'article est. Non, parce qu'on a un rendez-vous important. On va pas speedrun l'article parce qu'il est. Non, on le met pour demain. L'article, il est top, c'est dans la croix. Merci, Furioso, j'irai voir. Non, c'est un rendez-vous important. Je vous expliquerai plus tard. Un jour, je vous expliquerai. Dégagez tous, etc. Attendez, je vous montre. C'est un article génial qu'on lira demain. De toute façon, demain matin, je suis là. C'est le dernier article, de toute façon, que je devais vous lire ce matin. Donc, tout va bien. Je suis content d'avoir parlé de Christophe Glaise, par contre. C'est page 20. C'est de la futurologie. La Croix, en ce moment, joue à un petit jeu incroyable de se projeter dans 30 ou 50 ans. Il y a deux jours, c'était dans un monde avec quasiment plus d'avions, voilà, avec une baisse gigantesque en fait des déplacements en avion et les impacts sur l'économie, sur le tourisme, sur l'environnement. Donc voilà, c'est totalement de la fiction, voilà. Et là, ils ont refait ça avec l'IA. L'IA qui envahit nos vies avec ce que ça fait de bien, ce que ça fait de moins bien. Et c'est écrit comme un roman et c'est passionnant. Je vous lis ça demain matin sans faute. Voilà. Je l'entoure. Sans faute. Rendez-vous demain matin. Voilà. Je ne sais pas si je vous retrouve cet après-midi ou ce soir pour du gaming. En ce moment, j'essaie de passer du temps avec la famille. Je vous abandonne parce que j'ai un rendez-vous avec mon épouse. Enfin, avec mon épouse, on a un rendez-vous. Hein. J'ai des rendez-vous souvent avec mon épouse, hein, sinon on se croise pas mal. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. Vous êtes incroyables. Merci pour la belle ambiance que vous mettez dans le chat. Merci pour l'intelligence des échanges dans le chat. Qui est en live là? Qui on va faire un joli raid? C'était bien. C'est bien là d'avoir repris à fond l'actu là. C'est cool. Pas que des amis, que des amis. Que des gens bien, que des gens bien. Qui on va voir? Attendez, tout à l'heure, j'avais une amie artiste qui était en live, que j'avais pas vu depuis très longtemps, mais elle y est plus. Ah merde! J'étais content de la voir, mais alors elle stream très tôt. Je l'avais pas vu depuis très longtemps et je ne la vois pas. Je crois qu'elle n'est plus là. Non, elle n'est pas là. Ah zut! Ouais, ah, dommage, je l'aurais bien raid. Pas trop de gens ce matin en live. On va voir qui. Je regarde. Eh, quelqu'un que j'ai pas raid depuis longtemps et pourtant c'est un des meilleurs, c'est un des goats, c'est un des ministres d'ailleurs. Ouais. Ouais, on a dit qu'il serait ministre de l'éducation, je crois, dans mon futur gouvernement. Monsieur Rivenzi, mesdames et messieurs, est en live sur Red Dead Redemption 2. Voilà. Donc, en vrai, on va aller voir l'ami Rivenzi. C'est forcément un bon contenu. On va chez le Rive. À cet après-midi, non. À ce soir, non. À demain matin, ça c'est sûr. Merci pour la force que vous donnez aux streamers, aux streameuses. Merci pour les soutiens, pour les messages, pour les subs, tout ça. Alors ça, il ne marche plus. Ah, je sais pourquoi ça ne marche plus. Voilà, j'ai trouvé. C'est en train de partir. Ça part dans 10 secondes. Voilà, vous arrivez comme une masse, comme une foule. C'est incroyable, c'est magnifique. Comme une vague, pas de la Méditerranée, une vague de l'océan. C'est incroyable. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. À demain matin ou plus tard. Merci pour tout. Merci, c'était top.
c'est impossible avec le sans viseur. Voilà. Bonjour le raid, bonjour les amis de chez Samuel Etienne, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous sommes sur Red Dead Redemption. Et nous jouons dans une aventure, dirons-nous, immersive. Sans radar, sans viseur, sans artifice en fait. Donc bonjour, merci beaucoup Sam pour le raid, j'espère que tout le monde va bien. Salut des actualités ce matin.